Vous écoutez
RMC.
RMC.
Dans la défense centrale aussi, il y a des questions. Bon, il y a Christensen qui est arrivé, mais qu'est-ce que tu fais, Lucas Pouyol?
Ça fait partie du football de chambrer, mais attention au revers du bâton.
Ce qui est formidable dans le football, c'est que l'avis du chauffeur de taxi vaut celui de n'importe lequel de ses clients.
20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamin. Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute un podcast et bienvenue dans Génération After, l'émission qui ose dire du bien de Marco Verratti. On est ensemble jusqu'à 22h comme tous les soirs avec ce soir Sofiane Zouaoui du Winamax FC. Bonsoir chère Sofiane. Quelle entrée en matière.
Salut Nico,
micro
salut
fermé, Océane, magnifique Sofiane.
Excusez-moi.
C'est comme si tu disais pas de la radio.
Ravi de vous retrouver.
Des années quoi.
Exactement.
C'est un bonheur t'accueillir encore une fois.
Je prends l'habitude d'appuyer sur un bouton pour qu'on m'entende.
Tu as des assistants, trois assistants à Winamax, c'est ça?
C'est pas bien de la manière dont tu parles de Walid, c'est pas cool.
Bah, un doigt, le doigt de Walid.
Voilà. Un assistant où, Nico, tu viens de dire?
Winamax.
Ah, Winamax. Ouais, Winamax, d'accord.
C'est chez moi.
Ah, d'accord.
On l'a bien. Dit, c'est bien.
T'as les codes du match aussi
Ouais, on peut passer à autre chose.
Messieurs, vous avez reconnu la voix de Romain Kenuti. Bonsoir, Romain.
Salut Nico, salut à tous.
Il y a pas Marseille de la bande, hein, si on peut le dire. Je sais pas si Sofiane, on peut dire que tu es le lyonnais de la bande. Tu as le droit, tu l'as assumé.
Oui, il n'y a personne ici qui remplit ce rôle, donc je veux bien y aller.
Tu veux bien le remplir, super. Et Oussem Loussaïef, qui est là ce soir également. Salut Oussem.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Indéfinissable, évidemment.
Tu peux dire le beau gosse de la bande. Je n'ai personne qui remplit ce rôle. Je veux bien le remplir à votre
place. Bonsoir Gilbert, t'en penses quoi?
Salut les gars.
Est-ce que c'est le beau gosse de l'after, lui, ou réellement?
Non, mais c'est bien le mec qui le croit.
C'est celui qui croit le plus, en tout cas.
Je suis très vexé, ouais. Gilbert.
Il est déjà... En fait, regarde... Là, on l'a pas. Alors, on va faire comme Stéphane Guy. On va raconter un peu la radio. Mais il faut que les gens comprennent le regard de Gilbert envers nous. C'est vraiment ces repas de famille où tu as les jeunes qui parlent TikTok avant de passer à table.
Ah ouais, Gilbert, tu sens là, comme ça
voit,
non, moi.
Il nous regarde et il se dit...
Donc, en gros, il me voit comme un papy, celui-là.
Non, je te vois comme quelqu'un qui souffle en nous regardant.
Le beau gosse de l'after, ça reste Jonathan Bacardi, excusez-moi.
Pourquoi?
Parce qu'il est tatoué,
il a une Harley, c'est ça l'histoire?
Non, c'est lui qui a un peu d'allure, quoi, tu vois.
Ah, oui.
Regarde, Oussem, il est vexé.
Non, mais attends, je suis en train de réfléchir à chacun.
Non, mais c'est vrai qu'il a plus de style que toi, Oussem.
Je suis désolé, c'est de s'habiller comme un mec des années 70, avoir du style, ok, je peux mettre des costumes 8 pièces, moi aussi.
Eh ben, d'ailleurs, on accueille Jonathan, viens voir.
Alors, on est sur le minimaliste pour Sofiane. Tranquille.
Ouais, sur chemise, t-shirt
jus.
On est sur du Zara, on est sur un père de famille qui a pas d'argent. On est sur ça.
Messieurs, programme de Génération After ce soir jusqu'à 22h. Le PSG est-il maladroit avec Neymar? On a bien compris encore aujourd'hui que sa présence pouvait être embarrassante et pas uniquement pour Kylian Mbappé. On va en débattre. Appelez-nous au 32-16. Nice également. Lucien Favre, presque viré il y a 15 jours, toujours en place finalement avant d'affronter le PSG. Sa position est-elle tenable? Avis de Romain sur, tiens, l'Olympique de Marseille qui va exhorter Igor Tudor à ne rien changer. STP, reste avec tes principes, avec tes idées. Et puis à 21h30, on reviendra sur le courage des footballeurs de la sélection iranienne qui ont apporté leur soutien aux manifestants contre le régime en place. Quelles conséquences pour eux? Est-ce dangereux? On sera avec un Iranien qui a travaillé pendant 8 ans avec la sélection à partir de 21h30. La chronique de Jimmy Brown désormais attendue à 21h45 et donc à 22h, Gilbert Bribois. Qu'y a-t-il au programme, Gilbert, ce soir?
Nous aussi, on va parler un peu de l'OM. On va écouter attentivement Romain, puis tout à l'heure, on dira s'il a eu raison ou pas, parce que c'est quand même nous qui sommes juges de paix. Hein, oui.
Bien sûr,
tu sauras ça vers 22h15. Et puis, la réorganisation parmi les dirigeants, McCourt, Héros, que se passe-t-il? On va décrypter tout ça avec Florent Germain à 22h. Ensuite, les barbouzes du PSG, la fameuse affaire des anciens policiers qui donnaient des infos en sous-main au club. On a de nouvelles révélations ce soir, notamment sur le profil de ces gens-là.
De nouvelles clés USB?
Non, là on n'est pas sur de la clé USB, on est sur de l'enquête au classique, okay. Tu vois. Et puis suite aux déclarations de Julien Fournier hier dans
quel feu
dans
vous avez mis, quel feu vous avez mis aujourd'hui?
Bah non, nous on a juste posé des questions.
La France,
du foot n'a parlé que de ça en tout cas.
Ah, il y avait une séquence de qui est-ce qui était géniale juste derrière. Est-ce que il a un chapeau? Non, alors c'est bon, c'était génial.
Enfin, Christophe Galtier a quand même répondu aujourd'hui, donc on l'entendra. Et puis à 23h30, parce que coach Courbis est là ce soir, hein, c'est un événement dans l'after. 23h30, un des sujets préférés de Roland. Mais aujourd'hui, en 2022, c'est quoi un bon gardien de but?
Ah, mais c'est sûr qu'il veut. Il va
c'est
pas dire.
Pour lui, c'est sûr que c'est pas Areola.
C'est pas Areola. Je pense pas que ce soit Lafond. Je pense qu'il
c'est qui pour vous le gardien de but aujourd'hui?
Mike Maignan.
Contemporain 2022.
Mike Maignan. Bon sur tous les secteurs à peu près.
Bon, Mike Maignan. Thibaut Courtois.
Moi j'estime que Navas est dans les trois premiers, mais il joue pas. Ouais.
Comme ça, comprend, mais il est presque anachronique, tu vois. C'est un style.
Bon, après, il y a Matt Sells, évidemment.
Bien évidemment. C'est tout à fait objectif.
Gaëtan Poussin, évidemment. Merci Gilbert, à partir de 22h, avec tous ces débats.
Sofiane n'a pas dit Anthony Lopez, tu vois.
Non. Parce qu'on parle de gardien de but.
Comme tu es sévère avec Anthony Lopez.
On parle pas de chauffeur autoroutier.
Bon, voilà, le temps est donné. On est ensemble jusqu'à 22h. À tout à l'heure, Gilbert. Vous pouvez nous appeler au 3216, le hashtag RMC Live, pour réagir sur Twitter et l'application RMC Sport. Direct Studio pour envoyer vos commentaires également. Messieurs, donc, commençons avec le PSG. Cette question, le PSG est-il injuste avec Neymar? Alors, cette question peut en faire beaucoup, peut en faire réagir beaucoup parmi ceux qui nous écoutent ce soir. Mais on a le sentiment quand même, quand on écoute la direction sportive du PSG, Galtier et Campos, notamment, que Neymar n'était pas vraiment dans les plans et que sa forme peut être embarrassante en ce début de saison. Je rappelle que Campos, chez Jérôme Rotten, le 16 septembre, avait parlé de mercato raté parce qu'il n'avait pas recruté le 9 qu'il fallait, notamment à Kylian Mbappé, type Lewandowski, Scamacca, type Giroud, le fameux pivot qui aurait offert plus de liberté à Kylian Mbappé selon lui. Galtier, en plus, voulant jouer, il a dit très tôt, hein, quand il apprend mal le PSG, en 3-5-2, ce qui confirme qu'il aurait fallu sacrifier soit Mbappé, soit Neymar, a priori Neymar. Écoutez d'abord Christophe Galtier en conférence de presse aujourd'hui. Question posée à l'entraîneur du PSG. Mbappé a affirmé avoir plus de liberté en équipe de France qu'en club. Est-ce une réalité pour vous? Sa réponse.
Son analyse est juste. Et il n'est pas dans la même configuration chez nous qu'avec notre équipe nationale. Mais c'est des discussions que nous avions eues pendant la préparation. Ce sont aussi des discussions que j'ai eues avec notre président, avec Luis Campos, avant de démarrer la saison sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent pour avoir différentes possibilités, différentes solutions. Ce quatrième joueur avec ce profil différent n'est pas venu. Et c'est dommage, c'est comme ça.
Bon, ce quatrième joueur, on l'a compris, c'est forcément ce pivot, ce numéro 9 que le PSG n'a pas réussi à attirer. Alors, je sais pas, les gars, comment on peut le prendre Neymar entre Campos et Galtier encore aujourd'hui, même si Galtier dit qu'il est heureux, Neymar au PSG, qu'il adore ce qu'il fait, qu'il apporte beaucoup chaque week-end au PSG. Il dit en clair, on voulait avoir un 9 pour offrir à Mbappé sa liberté. Donc sortir Neymar. Est-ce que c'est une maladresse? Est-ce que c'est un manque de respect? Est-ce que c'est injuste vis-à-vis de Neymar qui, en plus, réalise son meilleur début de saison?
Non, mais juste, Nico, il y a un historique aussi de Neymar au PSG. Enfin, moi, je veux bien que Neymar se sente outré, que ça a peut-être contribué au fait qu'il soit un peu plus revanchard, et, pas de souci. Mais Neymar, on parle bien du joueur qui, un soir du titre du PSG, était à une table de poker sur Internet. On parle bien du mec qui, un jour, interviewé par un média... sur une séquence internet sur quel est ton meilleur souvenir, c'est la remontada quand j'en ai mis 6 au PSG. Enfin, ce mec-là, avec tout ce qu'il a fait et avec les quantités d'urine qu'il a déversées sur le PSG, peut quand même légitimement accepter que ça se passe aussi dans l'autre sens. Enfin, je veux dire, ça serait un peu gonflé pour moi d'avoir un Neymar qui se sente outré et qui considère que ce qui se passe actuellement au PSG en termes de communication, ça soit un affront. Moi, j'ai l'impression qu'on est presque dans une réduction du score. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme.
Et donc, là, pour toi, la réduction du score, elle se fait hors du terrain, c'est ça? On est sur un combat hors terrain.
Tu as raison de préciser ça, parce qu'il n'y a pas de revanche à prendre, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de score à réduire. Mais c'est juste, par rapport à tout ce que tu as fait, ça va.
Le problème, Romain, c'est que quand t'es dirigeant de club, quand t'as des responsabilités importantes, que ce soit sur le long terme pour ton club, sur le moyen terme ou sur le court terme, donc on parle d'une saison, t'es obligé malheureusement de réfléchir aussi d'un point de vue stratégique au niveau de la communication. C'est difficile à chaque fois de devoir reprocher à des joueurs ce qu'ils ont fait il y a un an, il y a six mois, alors que tu peux très bien capitaliser sur ce qui se fait de bien chez Neymar sur les dernières semaines. Ça veut pas dire non plus que nous, enfin moi, Neymar, je l'ai démonté à de nombreuses reprises quand il fallait le faire, avec bien sûr le
logique, courtoisie.
Je pense. Mais sur les dernières semaines, et moi, je remonte même à juin, quand Nasser Al-Khelaifi avait sorti cette interview dans Le Parisien, où en gros, il avait mis Neymar comme symbole des échecs du PSG, alors qu'en réalité, il y avait beaucoup plus de raisons que ça. Et puis en plus, même si évidemment, c'était pas suffisant, mais il finissait correctement la saison, il aurait pu capitaliser sur ça, sur la saison qui a suivi, sur l'été, puis la saison qui a suivi. Moi, je pense qu'au-delà de l'injustice, je pense que c'est injuste, déjà d'une part, et d'autre part, je pense que c'est pas intelligent stratégiquement.
Ouais. Voilà. Et tu sais, juste, je rajoute un point à ce qu'a dit Sofiane, c'est que si vraiment ça t'a dérangé son comportement, bah tu t'en sépares tout simplement. Et pour revenir à cette interview du mois de juin, la bascule.
Tout simplement, on a compris que c'était pas si simple de séparer Neymar.
Ah si, c'est très simple. Quand tu veux te séparer de quelqu'un, c'est très simple. Il paye des salaires à des joueurs aujourd'hui qui ne sont plus au Paris Saint-Germain. Donc si tu veux vraiment.
Ouais, mais là on parle
si tu veux vraiment t'en séparer,
on parle d'émoluments beaucoup trop gros.
Si tu veux vraiment t'en séparer, le montage financier, il est facile à faire.
Non, je pense pas parce que il a été prolongé même la saison dernière, pardon. Je crois que son contrat va jusqu'en 2027. Là, on parle vraiment de salaires très importants.
Parce que l'option automatique a été levée qu'il a tout de suite été il a tout de suite eu un contrat plus long.
Mais moi, c'était impossible de s'en séparer.
Je pense que dans leur objectif estival, c'était de se séparer de Neymar. D'où tout ce qu'on a promis à Kylian Mbappé, que tu auras un œuf qui correspond plus à ce que Galtier va mettre en place, et toi tu auras un peu plus de liberté. Je pense que si on a promis tout ça à Kylian Mbappé, c'est parce qu'on savait qu'on pouvait se séparer d'un des deux, Messi ou Neymar, et que le fusible
ils sont vraiment bizarres.
Le plus sautable était Neymar.
Ouais, je pense qu'ils se sont vus un peu trop beaux par rapport à ça. Mais tu sais, dans les déclarations là qu'on ressort de Campos, de Galtier notamment, Nico là que tu as ressorti, moi je pense qu'aussi il y a une façon de dire à Kylian Mbappé: t'inquiète pas mon copain, on t'a compris, sait que t'as envie d'un pivot, on a compris, on t'a saisi, on n'a pas pu le faire cet été, ou on n'a pas voulu, on n'a pas pu le faire financièrement, ou on n'a pas trouvé le bon profil, mais t'inquiète pas, on t'a compris, on essaye de gagner du temps jusqu'à au mercato prochain, voir si tu peux sortir Neymar. Mais moi, cette façon aussi de gérer la communication, et attention surtout pas le brusquer, le petit Kylian là sur cette année, moi aussi ça me va pas ça, parce qu'il y a aussi un respect, même si t'as raison Romain sur le fait que son histoire de Neymar au PSG, c'est 16 à 17 matchs par saison en moyenne depuis qu'il est là en Ligue 1, donc c'est ridicule. Je peux t'entendre. Par contre, il y a aussi un respect par rapport au joueur qu'il est et à ses performances actuelles. Moi, je suis désolé, je vois pas pourquoi on devrait mettre Kylian Mbappé, on devrait le brosser dans le sens du poil, et puis de l'autre côté, Neymar ne pas le considérer. Stratégiquement, je pense que c'est une mauvaise idée, ne serait-ce que pour cette saison-là.
Bah, visiblement, ça a touché Neymar, à tel point qu'il a réagi par l'orgueil, peut-être, depuis début de saison. Neymar, je rappelle ses stats, c'est 11 matchs, 11 buts, 8 passes. On va prolonger le débat dans un instant, Romain, bien sûr. Vous pouvez nous appeler au 32-16 également. Est-ce que le PSG est injuste ou un minimum maladroit avec Neymar? Appelez-nous au 32-16. Vous écoutez RMC avec Sofiane Zouaoui, Romain Canuti et Oussem Loussaïa. 20h13, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After sur RMC, merci d'être avec nous. 20h16 avec Sofiane Zouaoui, Romain Canuti et Oussem Loussaïef. On est ensemble jusqu'à 22h. Le PSG est-il maladroit avec Neymar? On a écouté la déclaration aujourd'hui en conférence de presse de Christophe Galtier qui insiste qu'il manque un œuf au PSG. Si un œuf arrive, par exemple, comme tu le dis peut-être, ou Sofiane cet hiver, qu'est-ce qu'on fait de Neymar? C'est aussi la question. Dans un 3-5-2, auquel tient absolument Christophe Galtier, eh bien, il n'y a pas de place pour ces trois-là. Neymar, Messi, il faudra faire un choix.
Ça, voilà. C'est sûr.
On va en débattre aussi dans un instant. Je vais accueillir Farid, le 32-16, supporter du PSG. Salut Farid. Farid, es-tu là?
Je suis là, vous m'entendez?
Oui, salut, bonsoir. Salut Farid.
Bonsoir à tous. Alors la question, c'est: est-ce que le PSG est trop dur avec Neymar? C'est ça la question.
Exactement, maladroit, injuste. Vas-y.
Bon, je pense qu'on va loin dans la question. On va dire que Neymar, depuis 5 ans, il a fait sa première saison, qui a été correcte, qui était même très bonne, son début de saison. Ensuite, on va passer les 4 rapides, et là, il fait un très bon début de saison jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Maintenant, de là à dire, je pense que Neymar a été très dur avec le PSG, il n'y a pas eu retour sur investissement. Donc, on verra si effectivement, à la fin de saison, on arrive à gagner la Champions League. Et puis, s'il est merveilleux, bah, écoute, ça effacera éventuellement une partie de tout ce qu'il a fait au PSG. Mais de là à dire que est-ce que le PSG est dur avec lui, écoute, non.
Je te pose une question, Farid, quand même. Si un œuf arrive, dans un profil, on l'a dit, de pivot, un gaillard autour duquel pourra tourner Mbappé et avoir
plus de liberté. Un peu nul pour Mbappé, c'est ça, en fait, la question.
Et on envoie Neymar sur le banc, tu réagis comment?
C'est pas qu'il manque, des joueurs nuls pour Mbappé. Hein, donc, ça, je pense qu'on devrait. on devrait trouver un rapidement. Non, mais aujourd'hui, vous êtes bien tous d'accord qu'aujourd'hui, le niveau qu'a Neymar, tu peux mettre qui tu veux en avant-centre, Neymar jouera.
Si un attaquant vient, je suis pas sûr de ça. Ça, c'est un principe de réalité. Mais si un neuf arrive et que ça oblige peut-être à mettre Galtier, à mettre Neymar sur le banc, comment tu réagiras, toi?
Moi, je me dirais, soit effectivement Galtier, il a un problème, parce que, écoute, moi, je faisais partie de ces personnes plutôt qui étaient, j'avais envie de mettre un coup de pompe à Neymar en fin de saison derrière, parce que toutes ces années il me gonflait. Qu'aujourd'hui, on juge qu'il est présent. Bah écoute, je peux pas l'enlever, Neymar. J'en ai trop besoin.
Oui, mais il va falloir enlever un joueur à un moment donné. Farid, tu fais comment?
Ben, ton neuf, tu vas en faire quoi? Tu mets, mais c'est pas Mbappé qui va décider s'il faut un neuf.
Mais déjà,
je suis tout content que Mbappé. Moi, je suis plutôt. On fait un comparatif avec l'équipe de France. Mais l'équipe de France, ils ont pas le problème de Messi et Neymar. On est bien d'accord. Oui. C'est pas les mêmes joueurs qu'on a.
Mais déjà, donc, tactiquement, Mbappé, Farid.
Il joue dans le registre qu'il a aujourd'hui. C'est là où j'ai du mal à vous saisir dans votre. Vous voulez que j'arrive à vous dire qu'on va mettre Neymar sur le banc parce que Mbappé veut un numéro 9?
Non, mais ça n'arrivera pas. Et Farid a raison, les gars.
Non, mais déjà, ça n'arrivera pas parce qu'aujourd'hui, tu as vu le début de
Neymar. Je pense que Mbappé aimerait avoir, il a dit, redit, avoir un attaquant d'un profil différent de Neymar à ses côtés.
Oui, mais on est quand même dans un sport collectif, on est d'accord. Et non, il faut qu'il Federer, il a pris sa retraite, et ben Mbappé il prend une raquette de tennis, il se met au tennis. Mais je fais partie des gens qui est très content d'avoir Mbappé qui a prolongé, et je trouve que c'est même très bien parce que ça lui permet au moins d'essayer de gagner une Champions League avec le PSG plutôt que de gagner une 15e, 16e, qui sera pas la même chose qu'une première en France. Maintenant, c'est quand même, faut remettre les choses dans le contexte. C'est quand même pas lui, et je ne pense pas, ou je l'ai pas entendu dire, moi je veux ça ou ça. C'est nous qui interprétons par rapport à ce qu'il a dit avec l'équipe de France, qui voudrait ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu dire ça. Donc, on interprète des choses, on suppose des choses.
Romain,
bon, on a des échos quand même, Farid. Mais vraiment, je pense qu'en fait, Kylian Mbappé, il résonne exactement comme Farid. Et j'imagine que toute la communauté du PSG résonne de la même manière. C'est-à-dire qu'en fin de saison, plus personne ne veut de Neymar. Et plus personne se dit, on est capable d'aller où que ce soit avec Neymar. Et puis, au vu de son début de saison, comme Farid... Comme Kylian Mbappé, c'est pareil, c'est la même école. Il se dit, avec un Neymar comme ça, qui est un des 5 plus gros potentiels mondial, si ce mec-là se met à vraiment l'exploiter et jouer à 100%, on va être très très bête de s'en priver. La petite différence, c'est que Neymar, il tient pas rigueur de tout ça et de ce retournement de veste, entre guillemets, à Farid. Par contre, il en tient rigueur à Kylian Mbappé parce qu'il est visible, il le voit tous les jours. Et effectivement, les petits likes qui vont bien contre le sens de Kylian Mbappé, il le fait. Mbappé le voit, les amis d'Mbappé le voient, sa mère le voit, son père le voit, on en a déjà parlé. Donc du coup, ça permet de cristalliser ce truc-là et Mbappé se dit potentiellement, j'ai en face de moi un Neymar qui est à fond et qui est revanchard. Donc oui, Farid, c'est pas juste... des petites déclarations qu'on surinterprète. Chacun essaie de délimiter bien son territoire parce que potentiellement il y a des oppositions à venir. Mais c'est l'histoire du football. Je rappelle juste que Samuel Eto'o, quand Guardiola arrive au Barça, il ne veut absolument pas de Samuel Eto'o. Il fait tout pour s'en séparer. Samuel Eto'o, il a fait le dos rond. Il a fait une saison extraordinaire avec Barcelone. On aurait pu faire des débats. Barcelone est-il injuste avec Samuel Eto'o? Il s'en fout, lui. Il a marqué ses buts, il a pris ses trophées, et après, ils ont quand même, encore une fois, cherché à le
décision des coach. Attends, Farid, Sofiane, Oussem, et je te rends la
parole. Que je voulais relancer par rapport à Farid, me fait penser à quelque chose. C'est que sur le sujet de l'injustice par rapport à Neymar, je pense qu'il faut qu'on dissocie les supporters et le club. Moi, qu'un supporter vienne et me dise, écoute, tout ce qu'a fait Neymar de négatif depuis son arrivée, je l'ai encore en travers de la gorge et j'ai besoin de beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il est critiquable encore aujourd'hui et que j'ai besoin qu'il me donne un petit peu du stock de positif par rapport au stock de négatif qu'il m'envoie depuis plusieurs années. Par contre, si t'es dans la peau d'un dirigeant, faut qu'il soit pragmatique. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre d'avoir des sorties comme ça sur ton joueur, sur ton meilleur joueur depuis le début de saison, parce que je considère que c'est le meilleur. En prenant ce risque-là et en prenant le risque de le brusquer pour la suite de la saison. Donc ça, c'est la différence pour moi entre un sup et entre un dirigeant.
Et pour rajouter, là, j'aimerais bien voir ta réponse, Farid, puisque tu ne comprends pas le terme d'injustice qu'on emploie dans la question. Et je trouve que pour ressentir l'injustice, c'est de se mettre à la place des personnes. Mets-toi à la place de Neymar aujourd'hui, Farid. Tu es Neymar et tu vois que tu fais un début de saison exceptionnel. Mais à chaque fois, il y a une conférence de presse et c'est pas toi qu'on met en avant. C'est même toi qu'on remet en question sur la tactique, alors que t'es le meilleur. T'es
le meilleur depuis le début de saison, mais à chaque fois, on veut mettre à l'aise d'autres joueurs autour de toi. Comment tu le vis, toi, si t'es Neymar?
Après, lui, il a l'air de bien vivre quand même.
Exactement, mais c'est ça, moi, qui m'étonne. Il le vit même très bien.
Ouais, mais moi, je vais répondre. On peut être supporter et être pragmatique. Hein. Je suis très pragmatique. Hein. Je suis pragmatique aussi.
Oui.
Et aujourd'hui, être pragmatique, je ne dis pas qu'il a regagné tout le crédit possible.
Oui.
Mais aujourd'hui, à l'instant T, je juge ses matchs d'aujourd'hui.
Oui.
Je
ne
vais pas juger. C'est comme quelqu'un qui a été jugé. Et tu vas lui reparler de ce qu'il a fait il y a 4 ans. Ça, c'est une chose. C'est pas parce que aujourd'hui, pour moi, rien n'est effacé. Par contre, les prestations qu'il a ne méritent pas. L'année dernière, oui, il fallait lui mettre un coup de pompe.
Il ne mérite pas qu'on oublie tout.
Il n'y a pas de souci.
Exactement.
Maintenant, si je suis à la place de Neymar, ben, j'ai pas entendu, moi, Nasser, ou j'ai pas entendu Galtier dire qu'il veut me mettre sur le banc et qu'il a aucun intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de Mbappé, c'est que mon avis, Mbappé, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, c'est pas lui qui fait que gagner l'équipe. Il n'est pas tout seul à faire gagner l'équipe. Et je pense qu'il aimait beaucoup. C'est que l'année dernière, ben, c'est lui qui nous faisait gagner tout. C'était lui. Il n'y avait que lui. Mais là, cette année, il n'y a pas que lui. Et c'est peut-être là qu'il y a un petit problème.
C'est exactement ça.
C'est ça la différence. Et je pense qu'il aime être celui qui te fait gagner. Mais ce n'est pas que lui qui nous fait gagner cette année.
Farid, tu as été coupé. Pas par mes soins, évidemment. Problème technique. Farid, tu es encore là?
Farid.
Je vais te dire bonsoir quand même. Allez. Je te dis bonsoir, Farid. Parce qu'on a d'autres appels au 32-16.
Farid.
Salut Farid.
Tu reviens quand tu veux dans Génération After. N'hésite pas à faire le 32-16. Bonne soirée à toi. Olivier est avec nous également. Salut Olivier.
Bonsoir l'équipe.
Salut, supporter du PSG. Tu nous écoutes Olivier, salut. Tu voulais réagir.
Bah oui, je suis un petit peu agacé en fin de compte parce que on se plaint parfois juste au titre du manque de réactivité du président et des coachs vis-à-vis des comportements que Neymar a pu avoir vis-à-vis du club, qu'il soit sportif ou extra-sportif, hein, si on prend juste aujourd'hui ses comportements sportifs. Il y a quelques mois, il se roulait par terre toutes les 4 minutes. Aujourd'hui, depuis le début de saison, il n'a pas fait une roulade avant une seule fois à l'arrière. Il se comporte de manière extraordinaire. Sauf que pour moi, la raison, elle est simple, hein, c'est qu'il y a une Coupe du Monde dans quelques semaines et j'ai le sentiment que post-Coupe du Monde, on risque de retrouver le Neymar des années passées. Et là, on a quand même une direction qui a décidé de dire les choses. On a un entraîneur qui décide de dire les choses. Et là, on est en train de se dire, oui, il ne faut pas se mettre le sportif à dos parce qu'à l'instant T, il est performant et qu'en agissant comme ça, on risque de se le mettre à dos. Mais dans les mois et les années précédentes, le joueur ne s'est jamais posé la question.
Oui, mais là, le club n'a pas anticipé ce dont tu parlais.
Mais là, comment tu veux... Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut anticiper le fait qu'il peut être nul ou à chier après la Coupe du Monde.
Non. Moi, je dis pas qu'il faut anticiper. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut être capable de dire les choses. Les saisons passées, le club a été toujours très indulgent, vis-à-vis de ses comportements. Et d'ailleurs, sur RMC, vous êtes souvent plein de ça.
Bien sûr, oui.
Et là, aujourd'hui... On est en train de dire, non, mais il n'y aura pas de passe-droit. Et sous prétexte qu'il ne faut pas avoir de devoir de mémoire et qu'il est performant, il ne faudrait pas le critiquer. Ben non, moi je pense
mon ami, c'est comme, tu sais, c'est comme avec un enfant. Je sais pas si t'as des enfants, mais si ton gosse il a fait une bêtise il y a 2 jours et que tu lui as rien dit de particulier et puis tu reviens 48 heures après et que tu lui dis non mais
il y a deux jours.
Lui fais la leçon il y a 2 jours t'as fait ça, il va te dire mais papa je comprends rien à ce que t'es en train de me faire. Donc c'est juste un souci de timing. C'est pas
le président n'est pas en train d'élever un enfant. Hein.
Bah, tu sais, parfois un peu pas loin,
on n'est pas loin. Ouais.
Mais ça remonte déjà ce souci de timing. Pour moi, c'est pas maintenant. Dès le mois de juin, la sortie de Nasser Al Khelaifi sur Neymar, moi, je l'avais pas compris. Et là, c'est exactement la même chose. Après, je te rejoins. Je suis d'accord avec toi pour dire que quand il le faut et quand le moment est propice, il faut y aller en termes de communication pour remettre les joueurs à leur endroit. Mais quand c'est pas le moment. Pour moi, là, c'est pas le moment.
Et ça n'a pas été le moment en juin non plus. Des messages, quoi.
Voilà, c'est faut faire attention sur la com. La com, c'est de la stratégie aussi.
Oui,
ça
en même temps, tu comprends que quand Neymar est froissé, visiblement, il réagit sur le terrain. Il a jamais été aussi fort depuis que le PSG lui a fait comprendre
de
manière indirecte qu'il ne voulait plus.
Voilà, mais ils ont de la chance.
On est sur une stratégie de com hyper fine, hyper habile, celle de Galtier.
On n'a rien vu voir, en fait, Nico.
Ils vont trouver pour nous ces hommes-là, on le sait, on l'a toujours dit. Merci, Olivier, d'être venu dans la génération After.
Pour confirmer une dernière fois, allô.
Oui, vas-y, Olivier.
C'est peut-être aussi pour confirmer une dernière fois à Neymar que le projet c'est Mbappé, c'est pas lui. Hein.
Oui, il continuera à le confirmer.
En tout cas, c'est ce qu'on a dit à Mbappé.
C'est pas terrible. Voilà, c'est bien pour préciser, c'est-à-dire que autant
ce qu'on disait hier.
Neymar, il n'y a pas de sentiment à faire, autant tel tapis rouge, on n'est pas non plus obligé.
Merci Olivier.
Bonne soirée.
Très bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC dans un instant. Tiens, on va encore parler du PSG. Décidément, Sofiane a un avis éclairé sur le patron, le président du Paris Saint-Germain, sur Nasser Al Khelaïfi.
Désolé.
Qui a donné quelques leçons. Vous l'avez vu, on en a parlé hier soir aussi au FC Barcelone. A-t-il le droit de le faire ? Il a la réponse, Sofiane. Dans un instant, il nous la livre sur RMC dans Génération After avec Romain Canuti, Oussem Loussaïef. 20h28. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After, merci de nous écouter. RMC 20h32 avec Sofiane Zouaoui de Winamax FC, Oussem Loussaïef et Romain Canuti. Messieurs, qu'est-ce que tu regardes, Oussem, là?
Je remercie notre producteur Jimmy Brown qui nous a mis en retour le match
le replay de Brésil-Tunisie.
Ouais. Et oui, vous avez gagné 5 ans.
Exactement.
Et non, franchement, et non, tu as perdu, tu as reçu le maillot de la Tunisie. Ça y est, tu es redevenu Tunisien.
Ah, je suis redevenu Tunisien aujourd'hui.
Tu veux pas que les Algériens y aillent à votre place, sincèrement?
Franchement, hein, je peux même le Botswana.
Très, si très, très bonne question pourrie pour Adrien Aigouin. Est-ce que l'Algérie, finalement, aurait dû représenter le Maghreb avec le Maroc.
Non, on mérite quand même d'aller. On a fait deux matchs nuls contre le Mali.
Je vais avoir des gros problèmes, je crois. Je me suis un peu égaré, messieurs. Je rappelle qu'à 20h45, on parlera de Nice. Hein. Lucien Favre est toujours en place. Il y a 15 jours, c'était quasiment improbable. Il est toujours là. Il va voter le PSG ce week-end. On va en parler dans un instant aussi. Sa situation est-elle tenable? Mais d'abord, Sofiane, oui. Ton avis tranché, intitulé Nasser, qui donne des leçons au Barça. Ça me fait rire. Jingle, Sofiane Zouaoui.
Dans la défense centrale aussi, il y a des questions. Bon, il y a Christensen qui est arrivé, mais qu'est-ce que tu fais du Capouillol?
Bon,
oui, c'était piqué. Excusez-moi.
Encore quelques émissions, il pourrait finir par avoir d'autres jingles.
Il y en aura d'autres, oui.
Alors, Sofiane, on t'écoute.
Ouais, je voulais revenir, Nico, sur une interview de Nasser Al Khelaïfi donnée dans Politico hier, un média, dans laquelle il fait référence à l'été du Barça en parlant, je cite, de niveaux dangereux d'endettement, ça je pense qu'il a raison, et des opérations magiques sur fonds propres qui ne sont pas une voie durable. Donc des opérations magiques sur fonds propres. Déjà, je sais pas s'il a sorti ses phrases sans exploser de rire ou s'il y a eu plusieurs prises, mais ça a motivé en tout cas mon avis. Et ensuite aussi, il a parlé des fameux leviers économiques, on n'a pas arrêté d'en parler cet été. Et donc il a rajouté, est-ce que c'est juste ? Point d'interrogation, non, ce n'est pas juste. Est-ce que c'est légal ? Je ne suis pas sûr. Il parle, je précise, en tant que patron de l'ECA, donc c'est à préciser bien sûr. Pour rappel, donc le Barça a vendu une part de ses droits TV à Sixth Street contre 200 millions d'euros sur 25 ans et d'autres parts d'actifs pour dégager des revenus immédiats. Notamment, on l'a vu cet été, pour être bien actif sur le marché des transferts.
150 millions d'euros à peu près.
Ils ont envoyé, voilà. Vulgairement, et pour ceux qui suivent Harry Potter, c'est Voldemort qui laisse des horcruxes dans la nature. En gros, c'est un petit peu ça. Déjà, bon, pour être sympa, je le rejoins sur la pérennité et la dangerosité de ce type de transaction. Déjà, c'est nouveau, donc on n'a pas vraiment de feedback sur ça. On verra sur les prochaines années à moyen et long terme si ça peut fragiliser le Barça. Donc, je le rejoins sur l'interrogation. Mais le Barça, comme d'autres clubs d'ailleurs, c'est pas le mouton noir. Ils participent à cette fuite en avant économique qui est générale d'ailleurs. C'est celle de développer des revenus immédiats pour poursuivre leur investissement, pour pas être largués en gros, souvent au détriment de la cohérence économique générale. On est OK jusque là. D'ailleurs, ça il l'a pas précisé Nasser Al Khelaïfi, comme le PSG, puisque le PSG a aussi signé un accord du même type avec la Ligue 1, avec CVC pour la Ligue 1. À moins que ce soit un double de Nasser Al Khelaïfi, qui n'a rien à voir avec le mec de base. Mais je pense que c'était lui. Et sur cette provenance, donc des revenus, je parle, le volume et l'opacité, soi-disant, des revenus, j'ai envie de demander à Nasser Al Khelaïfi, est-ce que c'est plus ou moins notable de développer ses revenus en vendant une part de ses actifs comme le Barça? D'ailleurs, les actifs, c'est pas du vent. Le Barça s'est valorisé par une histoire, par le point de vue médiatique, je veux dire, c'est... On pourrait parler de combien ça vaut, mais en soi, c'est sur quelque chose de tangible, de réel. Ou, comme le PSG, est-ce que c'est plus notable de parler des principaux revenus sponsoring du PSG qui proviennent de 6 groupes qatariens? Moi, j'ai envie de lui demander, on sait la proximité entre l'État et le club. Bien évidemment, ce n'est pas une attaque que sur le PSG, mais puisqu'il parle, parlons-en. Le problème de fond dans cette histoire, c'est de savoir qui parle, donc, c'est et ça, qui fixe les règles. Et j'arrive pas à croire que ce soit Nasser Al Khelaïfi qui soit le garant de la cohérence économique footballistique mondiale alors qu'il participe à cette fuite en avant, que son club avec d'autres, mais que son club fait partie des rois de la pirouette économique. Est-ce que c'est normal de voir Nasser El Khelaifi faire la pluie et le beau temps autour du respect du FPF, alors qu'il a été bafoué à plusieurs reprises, notamment par le PSG? Je vous renvoie au fameux contrat QTA surévalué ou difficile à évaluer dans les années 2018, 2017, 2018. Pour finir, est-ce qu'on peut être juge et parti en tant que président de l'ECA, président du PSG, et œuvrer dans le bon sens pour l'équilibre économique de nos clubs? Je ne pense pas. En tout cas, sur les leçons, moi, ça me fait bien rire.
Très bel exposé, Sofiane Zouaoui.
Je veux
juste... Il va plaire à beaucoup de sociaux du Barça, d'ailleurs.
Exactement. Et alors,
mais je valide pas non plus totalement ce que fait le Barça.
Exactement. Il y a plein de points à relever. Le premier, c'est que le problème majeur, c'est d'avoir un homme à la tête de l'ECA qui est un président d'un club et qui fait partie de cette association. Je sais pas quel est le modèle parfait. Peut-être qu'il faut ramener un homme de l'extérieur. Je sais pas quel est le modèle. Est-ce qu'il faut un homme hors foot? Est-ce qu'il faut un économiste, un financier? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on peut reprocher ça après à chaque président. À chaque président qui a quelques casseroles.
Avec Allegri, même si.
Exactement. On peut reprocher ça. Après, sur les actifs du Barça, pour revenir sur ce que tu disais, je me suis renseigné aussi sur, à la suite de cette interview, le Barça vend 25% de ses droits télé. Le PSG fait la même chose, pas sur le même pourcentage, mais avec le collège entier de la Ligue 1 et des clubs professionnels. C'est là aussi la différence. C'est que le Barça décide de vendre les 25% seul, alors que le PSG est dans une cohésion collective où c'est tous les clubs de Ligue 1, en gros, qui vont ramasser un peu, même si on sait très bien qu'ils sont les clubs qui vont en ramasser le plus. Sur ce point-là. Et c'est ça, en fait, qu'on reproche au Barça. Et là, ce qui est très étonnant dans ce que j'ai vu, c'est que la Liga rejoint Nasser El Khelaifi. La Liga a tapé sur les mains du Barça. En gros, les 150 millions d'euros. Alors, le deal, c'est très simple. C'est 25% des droits télé. Ça rapporte 667 millions d'euros à Sixth Street. Et dans les 667, il y a 150 qui sont mis de côté par le Barça pour avoir des fonds propres.
Il y a d'autres leviers économiques.
Il y a la vente de Socios.com et de Barça Studio également.
Juste avant que tu continues. Parce que c'est intéressant, juste sur la Liga, c'est bizarre qu'ils les reprennent alors qu'ils valident totalement le fait que leurs revenus rehaussent le plafond salarial et qu'ils puissent recruter après.
Je te rejoins, c'est peut-être aussi une reprise de façade. Okay. C'est peut-être pour dire, en gros, on vous reprend. On n'accepte pas trop que vous ayez 150 millions d'euros, va falloir les justifier un peu plus tard. Et je pense que c'est ça, puisqu'on les a laissés faire et ils ont pu faire les dirigeants ont pu faire leur recrutement tranquille. Et c'est surtout sur ça, moi, que j'ai envie de rebondir, c'est que c'est un peu malaisant d'avoir un homme à la tête de l'ECA qui est à la fois aussi à la tête de son club, qui a aussi d'autres fonctions ailleurs. Je pense qu'il faut, c'est un peu ce qu'on demande aux hommes et aux femmes politiques, ayez qu'un seul mandat et ça sera beaucoup plus simple dans la lecture en tout cas de vos fonctions.
Non mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la tête de n'importe quel club, il est à la tête d'un club qui s'est construit grâce à l'argent. Ne commencez pas à dire c'est le Marseillais qui parle.
C'est le Marseillais qui parle.
L'argent, un club.
Oui, comme la majorité des clubs.
Mais l'Olympique de Marseille, voilà, exactement, en 86, qui gagne en 93. Là, ils se sont fondés en 2011, ils n'ont toujours pas gagné. Il y a un moment donné où tu dois avoir aussi une certaine légitimité. On en revient à ce qu'on disait hier dans le débat, ce que je disais, que le fait que le père d'Mbappé soit consultant, désolé, il va se dire, il s'acharne. Je m'en prenne à lui et de dire qu'en fait, il n'est pas légitime, c'est que quand tu viens pour une fonction de juste dire je suis président, moi, c'est comme les présidents de club qui vont faire des conférences ou quoi que ce soit, juste sur le format je suis président de club. Tu n'as pas passé un diplôme pour être.
Oui, mais c'est censé entraîner une expérience et une expertise.
Voilà. Et ben, elle se justifie comment? Qu'est-ce qui fait que Nasser El Khelaifi ait une expertise? Moi, pour moi, il en a pas. Il a été, enfin.
Mais il est quand même dirigeant d'un club. C'est.
Alors, oui, pas mais qu'il fait il est bien, comment mais... dirigeant d'un club? Est-ce qu'il a gagné une élection? Est-ce que non? Il a été ici. Il a été mis en place et il est là. Il a pas de, pour moi, de légitimité.
Mais,
tu as une légitimité.
Non, mais il bosse au quotidien. Nicolas Jamin.
Ça fait 11 ans qu'il est patron.
C'est ce que j'allais dire.
Nicolas Jamin, il en avait aucune expérience il y a 11 ans. Il a fini par l'acquérir.
C'est ça.
On peut se dire aussi.
Ben, combien de fois on a dit il est peut-être proche de la sortie?
Non, on dit pas qu'il fait tout bien, mais il a quand même une expérience, le monsieur, quand même. C'est Nicolas Jamin, il est journaliste, personne ne l'a nommé journaliste. Ça fait 20 ans qu'il est journaliste. Il peut parler de ce métier, tu vois.
Mais de toute façon, là, le débat, Romain, c'est ce qui met en avant une chose. C'est ce que Oussem a précisé aussi. C'est que, moi, je comprends pas, en fait, même si maintenant c'est le modèle, et ça l'a été d'ailleurs à l'époque de Michel Platini quand il a lancé le FPF, on sait très bien que c'était en concertation avec tous les clubs. C'est-à-dire qu'ils ont accepté que ce modèle-là soit comme ça. Mais moi, je comprends pas comment on peut aller vers une cohérence économique globale avec des juges qui sont partis.
Qui sont acteurs, exactement.
C'est impossible. Ou alors, faut nous raconter une autre histoire. Parce que là, on est sur une explosion, notamment des investissements depuis le Covid. On a eu un FPF qui a été mis en pause pendant la période Covid, qui va revenir, mais sous une forme, bon, sur les plafonds salariales allégés, etc. Moi, je comprends pas comment on veut la bonne marche du football et une viabilité sur les prochaines années en étant jugé parti. C'est pour ça que je dis pas que le Barça, c'est génial ce qu'ils font. Je dis simplement que tout le monde est dans le même bateau et que personne n'a de leçons à donner à personne.
Exactement.
Voilà.
Mais encore gagner des titres, s'il vous plaît. Il y a une légitimité. C'est-à-dire qu'il y a des présidents, j'y reviens, ceux qui ont gagné des Ligues des Champions, revient Florentino Pérez. On peut dire le modèle Florentino Pérez. Voilà, ça a apporté ses fruits. Le modèle Nasser El Khelaïfi n'a rien apporté.
Oui, mais le modèle Florentino Pérez, il est aussi basé sur une inflation.
Un club 11 ans, avec des moyens, bien sûr,
avec des casseroles et des clés USB.
Voilà, on en parlera à partir de 22h également de tout ça, messieurs. Voilà pour l'avis de Sofiane. Dans un instant, Nice, Lucien Favre, toujours sur le banc du gym. Est-ce que les dirigeants ont raison de lui faire encore confiance après ce début de saison raté? Nice est 13e de Ligue 1. On vous attend, supporter niçois au 32-16. Et croyez-vous un rebond avec Lucien Favre? Dans un instant, avec Oussem Le Saïef, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After, merci d'écouter RMC, 20h45, on est ensemble jusqu'à 22h. Messieurs, je vous rappelle que RMC, qui a déjà lancé sa Coupe du Monde, on est à 52 jours précisément du Mondial au Qatar, vous fait gagner 2 places pour assister au match Tunisie-France, qui aura lieu le 30 novembre, vol, hébergement et vos places pour... On va pas contribuer au bilan carbone. Ah, mais c'est bilan carbone, on va pas se mentir. On peut aussi offrir des vélos d'ailleurs, peut-être.
Pour y aller.
Ouais. C'est jouable. Hein.
Bah, fais-le toi.
Électrique alors, s'il te plaît.
Vous pouvez gagner 2 places donc pour Tunisie-France le 30 novembre. Vous allez aussi rencontrer l'équipe de RMC sur place. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Et c'est le plus
en envoyant RMC au 732-16, RMC au 732-16. J'ai envie de dire quand même qu'entrevoir un match du Coupe du Monde Tunisie-France
ou voir Nico
Jamain, il n'y a pas photo, je pense quand même.
Oui, ouais, les gens préfèrent voir Daniel.
Messieurs, Nice à présent. L'OGC Nice, la situation de Favre est-elle tenable? Il y a 15 jours, je le rappelle, ses heures étaient comptées. Il y a eu un échange avec Mauricio Pochettino, ça ne s'est pas fait finalement, donc Lulu est encore là, sur le banc niçois et en conférence de presse aujourd'hui avant le match contre Paris. Écoutez-le, c'est la première fois qu'il répondait à ces rumeurs d'éviction à la tête de l'équipe professionnelle.
Les rumeurs sont les rumeurs, mais pas de problème, je connais ça. On a une très très bonne réunion une fois où il s'est exprimé. C'était une discussion avec tous les joueurs, tout le staff, etc. C'était très bien, quoi. Après, j'ai l'habitude, j'en ai vu d'autres, quoi. Moi, je me focalise sur les 11 matchs qu'on a jusqu'à novembre. Et puis le reste, voilà, c'est comme ça.
Bon, je rappelle, hein, Nice, début de saison raté, 13e de Ligue 1.
De faire un câlin, quand même.
Mais on l'aime bien quand même, lui. Ouais.
Je me focalise sur les 11 matchs qui restent qu'un nombre. Il a donné son calendrier.
Il a donné ce qu'on lui a donné comme calendrier, surtout. Ouais. On a l'impression.
C'est qu'il parle d'une deadline, d'un ultimatum, façon Peter Bosz.
Enfin, là, il est à deux doigts de dire après, il y a mon carton qui sera prêt, les déménageurs passent le 13.
Et puis, il te parle de la réunion, donc en gros, on s'est dit les choses. Donc, il fallait se les dire.
Ça s'est bien passé avec Dave Brailsford. Il dit voilà, je suis philosophe, je connais le métier, j'ai de la bouteille, les gars. S'il me fait virer dans 11 matchs,
le chèque
est c'est
de...
la vie, c'est pas grave. J'ai aimé ma parenthèse niçoise, ma deuxième. Est-ce que vous sentez capable de relancer le gym? Ou est-ce que pour vous, les dés sont déjà pipés, le verre est dans le fruit? Je peux trouver une troisième expression toute faite.
Vas-y, donne-moi. Déjà, moi, je trouve la situation particulièrement gênante et de plus en plus gênante. D'ailleurs, merci à Nice parce que depuis l'été, c'est franchement un florilège. Ils arrivent à nous sortir à chaque fois des nouvelles actions. Mais sur la gestion, encore une fois, d'Ineos, on en avait parlé tout l'été, on a parlé du mercato, etc. Directeur sportif Fournier, que vous avez eu hier notamment. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'on veuille nous fasse croire qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas eu d'approche sur Pochettino ou un autre coach, alors qu'on sait très bien que ce qui sort, il y a toujours une part de vérité. Les sorties de communication ensuite de River qui essayent de le rassurer sur l'équipe, Brailsford après la réunion avec Favre, nous on sent bien dans la conférence de presse de Lucien Favre qu'il y a un malaise.
Il n'y a aucune sérénité.
C'est gênant, c'est totalement gênant. Et encore une fois, là, on parlait de stratégie de com tout à l'heure avec Marseille, avec Paris, pardon. J'anticipe Marseille, Romain. Mais c'est pareil avec Nice. Si t'es pas capable de garder un secret aussi lourd que le fait d'aller parler avec un autre coach en cours de saison, c'est que t'es vraiment largué en termes de communication, en termes de gestion de
ou
communication.
Ou que t'es tellement confiant voilà. Sur l'arrivée du nouveau coach.
Ouais, ouais, exactement. Dis, bon, en tout cas, t'as fait une erreur. Regarde, si on prend la comparaison, là, je vais parler de Marseille de cet été, Sampaoli qui est viré, une heure avant, personne n'est au courant. Tudor qui arrive, personne n'est au courant que c'est Tudor. Donc, moi, je veux bien à chaque fois qu'on mette en avant, parce que c'était le sujet de l'interview notamment de River, et puis on nous le répète depuis plusieurs mois, Ineos, c'est la performance, etc. Moi, je vois beaucoup d'amateurisme.
Il y a beaucoup de carences dans l'organisation. D'ailleurs, c'est ce que dit hier Julien Fournier, pour le citer, dans l'after hier soir. Il dit, Lucien, si vous ne le mettez pas dans une organisation préétablie avec des règles claires, que lui n'est pas en charge de faire respecter. Lui, c'est un chef d'orchestre qui peut faire jouer la musique, mais il faut qu'il y ait une organisation assez stricte pour de l'équipe.
Il faut qu'il y ait Julien Fournier. En gros, c'est ce qu'il dit.
C'est un peu ce qu'il disait. Bah, même si lui ne le voulait pas. Voilà. Non, pas sa priorité, c'est des arbitres.
J'aime beaucoup Julien. Oui, bah, ça aussi, c'est pas mal. Une fois que t'es plus en poste, c'est bien de dire ah ben moi j'aurais pris De Zerbi.
On savait à l'époque que le nom de De Zerbi circulait aussi
mais
du côté de
on savait aussi que De Zerbi il y avait beaucoup d'exigences oui. Que c'était très compliqué, c'était un dossier à faire venir, ça mange pas de pain. Tiens, moi aussi je t'en donne des expressions de glisser ah ben moi avec moi ça aurait été De Zerbi. C'est pas dit que De Zerbi aurait accepté.
Il y avait beaucoup lui il dit juste qu'il le voulait.
Et puis derrière de dire ah ben oui bon ça a été la réflexion de Daniel que plein de gens se font sur le moment de se dire ah ben oui ça aurait été un bon choix. On n'en sait rien, ça se trouve De Zerbi il serait arrivé, ça aurait pas du tout pris avec
ça aurait pu être un bon choix
et voilà. Donc là le Fabre aussi sur le papier on peut se dire ça, c'est un bon choix oui. Là moi ce qui m'inquiète c'est que j'aime bien un entraîneur, il y en a aussi dans ces moments là qui savent, qui regardent le vestiaire, qui regardent toutes les têtes et qui envoie 4-5 qui adhèrent quand même au discours et qui dit allez les gars, nous on est le noyau dur et on va entraîner le reste tous ensemble.
Dante en fait partie d'ailleurs, de ce qu'on comprend.
Il a tout de suite
Dante oui. En fait partie.
Et le problème, c'est que là, j'ai pas l'impression. Alors après, peut-être qu'il a un double jeu formidable, mais là, j'ai pas l'impression quand j'écoute chaque intervention de Lucien Favre, je revois Mel Gibson dans La Passion du Christ. Il est en roulis, enfin, il attend tranquillement.
Mais ça, c'est depuis le début.
Il a écarté les bras et en fait.
Non, mais je pense qu'il fallait tout de suite s'inquiéter, Nico, le jour où en conférence de presse, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez parlez-nous du recrutement d'Aaron Ramsey, qu'il a dit, on m'a dit que c'était un milieu relayeur. Bon. C'est déjà à ce moment-là, tu comprends que non, je le pense gars que il a la tête
là, il est dans le fatalisme, la résignation,
là,
il a compris
la fois où il avait le plus d'énergie et c'est la fois où il a glissé son tacle le plus acéré depuis son retour.
Tony est avec nous, supporter de GC Nice. Salut Tony.
Salut Tony.
Salut Tony.
Bonsoir Tony.
Bonsoir. Tony.
Tu es là Tony. Très bien.
Ouais, salut les gars.
Bon, alors, est-ce que tu penses que Lucien Favre peut réussir à relever le gym à l'issue de ses 11 matchs?
Alors, oui, pour commencer, mais juste pour revenir un peu sur ce que vous avez dit et sur ce que Fournier a pu dire hier, moi je veux bien, et en effet je trouve ça un peu facile une fois qu'on est parti, mais il y a un truc qui me paraît évident parce qu'il dit que Lucien Favre, il lui faut une structure bien établie pour pouvoir s'épanouir, etc. Mais à côté de ça, il dit que ce qui a poussé à son départ, c'est qu'avec le nouvel actionnaire, il y a une idée bien définie et qu'on veut donner un rôle de manager à un entraîneur. Donc il faut m'expliquer un petit peu la logique du coup. Est-ce que Favre a été recruté dans ce rôle de manager? Je ne pense pas, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui l'intéresse. Et donc dans ce cas-là, est-ce que le gym va recruter à nouveau un DS? Et ça a l'air de partir là-dessus. On a recruté notre nouveau DG. Le DS apparemment c'est dans les tuyaux. On ne sait pas encore qui ça va être. Mais je ne pense pas que ce modèle de manager à l'anglaise ce soit finalement ce qui arrive. Et je pense que Favre, en effet, sera plus à l'aise une fois qu'il aura une structure au-dessus de lui. Mais cela étant dit, moi, je suis favriste depuis toujours, depuis qu'il est passé au gym. Et si je trouve que le début est compliqué, qu'on a du mal à voir ce qu'il met en place, je pense qu'avec un peu de temps et un peu de travail, ça va se mettre en place. Ça va pas être une grande saison du gym. On en est tous conscients, je pense, chez les supporters. On peut peut-être espérer un petit parcours en Conference League, on verra. Mais je crois encore en lui. J'ai vibré toujours avec cette équipe. Moi, le déséquilibre, ça m'intéresse. Je suis toujours curieux de voir ce qu'il va faire. Et je pense qu'il a vraiment les joueurs pour tenter plusieurs dispositifs. Peut-être un peu trop, parce qu'il y a des profils extrêmement différents et pas toujours complémentaires. Mais voilà, moi, j'ai envie d'y croire. Je suis encore optimiste. Après, c'est vrai, je lui donne beaucoup plus de crédit que ce que je pourrais donner à un autre entraîneur, de par ce qu'il a fait par le passé à Nice et ailleurs. Donc, je suis moins exigeant avec lui que j'aurais pu l'être avec d'autres entraîneurs au début de la saison. Mais voilà, ouais, j'y crois encore pour moi.
Tony, pour toi, il a quel ressort, en fait, Lucien Favre, pour inverser cette dynamique qui est plutôt négative à Nice?
Mais en fait, c'est très dur de parler des ressorts des entraîneurs parce que, évidemment, Lucien Favre, on sait qu'il ne joue pas du tout sur la corde de l'agressivité. Les gars, on part à la guerre ensemble. Enfin, c'est pas Galtier, quoi. On sait que ça ne va pas fonctionner comme ça. Et que lui, il a besoin de joueurs intelligents. Avec, certes, un engagement, mais aussi du cul foot et de la tactique. Et là, le problème pour l'instant, c'est que.
Il y a Mario Lemina.
Non, je plaisante, désolé. Moi, j'aime bien Mario Lemina.
Encore, c'est pas le pire. Hein. C'est celui qu'ils ont voulu virer. Ah, c'est un peu
ah ouais, c'est gratuit, là, quand même. Non
c'est sur la description
de Tony. La description du Marseillais.
J'avais
ça
la description de Tony, j'avais Mario Lemina et ça collait pas.
Il passait liste de course, lui. C'est Lemina.
Non, mais il y a des joueurs intelligents dans cette équipe. Sochan Diop, c'est un joueur hyper intelligent. La Dante, intelligent. Kefren Turan, hyper intelligent. Enfin, et je parle pas de Dante, évidemment, avec son expérience. Mais c'est juste pour réussir à enclencher, je pense, une dynamique et à un peu amener de la confiance pour que les joueurs s'engagent de même. Parce que, en effet, ce sera pas des discours enflammés. Mais par contre, si on sent que ça commence à prendre et que dans le dispositif, ça fonctionne de mieux en mieux, je suis persuadé que, ouais, ça peut enclencher une dynamique positive. La saison, c'est encore le début. On a bien pris du retard, on a compris. Le début de saison, il est bien raté. Mais si on arrive à engranger quelques points, à avoir quelques matchs de référence, après lui, ce sera par la réflexion, par les dispositifs tactiques et par le fait d'emmener le monde par les résultats.
Le problème, Tony, c'est qu'il était fragilisé plus que ça, même dans les médias, par sa direction. Comment tu tiens ton vestiaire aujourd'hui ? Tes joueurs qui savent que ton heure va bientôt arriver, que ton heure est comptée.
Aujourd'hui, Tony, juste dans un vestiaire, pardon, et dans tous les vestiaires du monde, si ils ressentent médiatiquement une fragilité chez le coach et ou qu'il n'y a pas de lien entre le coach et sa direction sportive, t'inquiète pas, ils vont s'engouffrer très facilement. D'ailleurs, ils ont pas attendu que ça se passe pour le faire. Là encore plus avec la rumeur Pochettino. Moi je suis très pessimiste et pourtant j'aime plutôt Lucien Favre d'ailleurs, hein. Mais déjà je pense que c'est pas un coach qui est capable de se relever de situations de vestiaire difficiles. Ça a été le cas à Dortmund, ça a été le cas à Gladbach, ça me fait penser d'ailleurs à Peter Bosz.
Je pense à lui.
Mais, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais à chaque fois que ça commence à aller difficilement avec son vestiaire, il a jamais eu des ressorts dans sa carrière pour relancer la machine. Encore plus.
Prendre l'exemple du monde que, si tu veux, mais n'empêche que Lucien Favre, au début, il a toujours réussi dans les premières années.
Bien sûr, c'est un peu plus
compliqué au départ. Donc, on se retrouve quand même dans une situation inédite pour lui. Moi, j'entends que des fois, il a perdu ses vestiaires et je pense, en effet, que c'est difficile avec un entraîneur comme ça qui est très exigeant tactiquement de toujours garder tes joueurs à moyen terme. Mais par contre, au départ, à partir du moment où il s'est installé, il arrive normalement à embarquer ses équipes pour un an et demi, voire deux ans. Et là, on est dans une situation inédite pour lui. Et moi, je comprends ce que tu dis. Et en effet, je suis d'accord dans les vestiaires, les joueurs avec des égos importants qui ont peut-être pas le temps de jeu qu'ils veulent ou qui aimeraient avoir d'autres choses ou un autre entraîneur, ils peuvent pousser pour son départ. Mais là, faut pas oublier que voilà, c'est encore le début de saison. C'est un choix fort de River parce qu'on a bien compris que c'était pas le choix de Fournier. Donc tu peux pas juste pousser pour lui. Et à un moment, les joueurs, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. Je pense que c'est pas si facile pour ça. Pour les joueurs de pousser contre un entraîneur, alors que tu vois qu'on est l'équipe, je crois que c'est l'avant-dernière équipe en termes de course à haute intensité, on est 16e de Ligue 1 en nombre de sprints, enfin, c'est, quand on voit nos stats générales, moi je veux bien dire tout ce qu'on veut sur Favre, mais en effet ça marche pas, je me vois pas la face pour l'instant. Mais je dis juste que les joueurs, faut aussi qu'ils se regardent. Et
le problème, c'est qu'on lui impose des quadrats comme Barclay, RMC. Donc, pour l'intensité,
je suis d'accord
évident.
Avec toi, Tony. J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est pas la route qui est prise par les joueurs, surtout les joueurs, les derniers,
les choix de joueurs. Années, ouais. Tony, merci d'avoir fait le 32-16.
Merci.
Je rappelle que Nice affronte le PSG au Parc des Princes samedi soir à 21h. On sera là bien sûr pour le match en direct et le débrief dans l'after, dans la foulée. Merci encore Tony, à très vite sur RMC. Dans un instant messieurs, la suite des générations after, 20h57, on va parler de Marseille. Un avis de Romain Canutti qui envoie une prière à Igor Tudor. Ne craque pas Igor, reste là, STP, garde le cap, ne change rien. Tu es parfait comme ça. Sauf en Ligue des Champions. Dans un instant, il faut le tenir cet avis, pas évident. Vous pouvez nous appeler déjà au 32-16 supporters marseillais avant même d'entendre l'avis de Romain Canutti. Oussem Le Saïef à mes côtés, Sofiane Zouaoui également. On revient dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
RMC.
Le profil d'attaquant qui n'en est pas vraiment un avec
vraiment un.
Il faut 9, 64, 63. Stéphane n'a pas dit Anthony Lopez.
Parce qu'on parle de gardien de but, on parle pas de chauffeur autoroutier.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Magnifique activité, notre réalisateur,
hein, Paul
Vexio, très fort,
bravo,
magique.
Bravo,
les doigts de fée, avec Sofiane Zouaoui, Génération After, Romain Canuti et Oussem Loussaïef, messieurs,
je
à 22h.
De lâcher des bombes pour vite mettre sous le tapis cette liaison.
T'inquiète pas, non, elle sera toujours là.
Ouais, elle restera à vie. Hein.
Elle ressortira, quelquefois.
Ma mère peut écouter.
Hein. Ta mère peut écouter. Dans un instant, messieurs, on parlera également de la sélection iranienne à 20h30, hein, qui a eu un courage absolument fou, ouais. Celui de marquer son soutien aux manifestants et manifestantes anti-régime iranien, notamment en enfilant une parka noire au moment de l'hymne iranien lors du match contre le Sénégal. On sera avec Bamdad, hein, qui lui a suivi et accompagné la sélection pendant 8 ans. Il connaît très bien ces joueurs, il les a vus gamins, il les a vus grandir également. Mais d'abord Marseille, messieurs, quelques infos. Marseille qui sera à Angers demain soir sans Nuno Tavares, on le sait, suspendu pour accumulation de cartons. En revanche, tu dois annoncer, hein, il fait ça parfois en conférence de presse, Gerson sera titulaire demain.
Ouais. C'est vrai que souvent,
c'est un joueur important pour nous, on compte sur lui.
Souvent, il annonce
une petit volonté côté Bielsa, quoi. De le relancer, tu vois. Calinothérapie.
Ouais, un petit peu.
Il avait fait avec Payet. Il avait fait avec Payet déjà, non?
Ouais,
il
y avait Payet.
Ouais, après le match contre Francfort, c'était contre qui, je sais plus.
C'était avant Francfort, c'était après
avant
Lille.
Avant Francfort, il annonce qu'il jouera
après Lille. Il dit non, mais il va jouer
pour la Coupe d'Europe,
okay, le match d'après. Ouais. Et là, c'est pareil avec Gerson. C'est pas à la base une question est-ce que Gerson va jouer ou pas, mais c'est lui relance en disant ouais. Voilà.
Il s'adoucit un peu. Hein ça lui réussit pas trop d'ailleurs.
Non,
moi j'aimais bien quand il était parfois étranger.
Non, mais il a toujours protégé ses joueurs quand même.
Ouais, mais médiatiquement, un peu moins que ce qu'il fait depuis la période autour de Francfort, je trouve.
Il s'est manqué.
Surtout autour de Payet et Gerson, ouais.
Il s'est manqué là-dessus, mais pour autant, et c'est un peu l'objet de mon avis à ce sujet, j'ai quand même envie.
Attends, Romain, là, c'est l'after, il y a un jingle quand on va lancer un avis tranché.
Ah, d'accord.
On revient. Allez. Laisse-moi finir sur les infos sur Marseille avant Angers demain soir également. Je précise que Bailly et Rongier sont entraînés. Une bonne nouvelle, ils seront opérationnels pour déplacement à Angers demain soir.
Il
ne
devrait pas jouer quand même, hein. Attention.
C'est donc ton moment ce soir, encore une fois. Jingle, Romain Canetti.
Ce profil d'attaquant qui n'en est pas vraiment un avec
vraiment quand même.
Tu voulais juste en fait
on l'a tous fait. Ça arrive, hein.
Ça arrive.
Tu voulais réécouter le jingle en fait, c'est ça?
Hein?
Tu voulais réécouter le jingle.
Je voulais.
On peut remettre le.
Ah non, c'est bon.
On va combattre ça.
Pardon. Alors, est-ce que ton avis tranché, on est vraiment un? Écoutons Igor Tudor. Vas-y Romain.
OK, bah écoute, moi ce que j'ai juste envie de dire, c'est que je constate après, et c'est pas le relais des Marseillais, c'est pas tous les Marseillais pensent. Je suis dans un avis d'observation en fait, et je constate qu'à chaque contre-performance de l'OM, il y en a quelques-unes depuis le début de saison, on remet en cesse en cause le système d'Igor Tudor, et ça me dérange un peu parce que on voit ça en fait dans plein de clubs, c'est pas nouveau, hein, ça arrive aussi dans d'autres clubs, et c'est là en fait pour moi où on juge un entraîneur. Et j'ai un avis, moi, qui m'a un peu interpellé, c'est quand Samir Nasri, Walid n'est pas là, mais on a le droit quand même de parler de Samir Nasri.
Je suis son bodyguard, fais gaffe.
Ok, qui est consultant sur Canal, et après match de Ligue des Champions, qui dit le problème de Tudor, c'est qu'il a qu'un schéma, il sait pas s'adapter. Bon, Samir, quand c'était Sampaoli, l'entraîneur, ton copain de la Pampa, et qu'il avait aussi qu'un schéma, ça te dérangeait moins. Là, Tudor, il a un schéma, mais Pep Guardiola, il a un schéma, enfin, je veux dire, tous les coachs ont un schéma, il n'a pas besoin de changer, et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un Igor Tudor qui reste fidèle à ses principes. Alors après, dans un schéma, il y a des animations,
oui.
Elles peuvent changer, il peut changer plusieurs choses dans son animation. Quand l'OM rate des matchs, quand l'OM a raté des matchs, ça peut être du fait de la performance de certains joueurs qui étaient en dessous, ça peut être du fait d'une mauvaise approche d'Igor Tudor. Moi, je pense que le match contre Francfort, par exemple, a été mal préparé par l'Olympique de Marseille, qui a eu des choix qui sont pas bons, que d'habitude, depuis le début de saison, il a montré qu'il était très bon dans le coaching pendant le match, et que sur ce match-là, ça n'a pas été le cas. Ça a été, sur les 2-3 dernières rencontres, effectivement moins brillant là-dessus. On va reciter une nouvelle fois Roland Courbis. Les joueurs sont fatigués quand il y a des matchs tous les 3 jours. Des fois, ça arrive aussi aux entraîneurs d'être moins inspirés. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la faute du système à chaque fois. Dès qu'il y a une contre-performance de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas la faute du système et l'OM peut réussir là-dedans. Moi, j'ai vu un entraîneur à Lyon qui, quand il est arrivé l'an dernier, on a dit, vous allez voir, c'est vraiment un homme de, il a des principes de jeu, il a des, tous les entraîneurs, dès qu'ils arrivent, ils ont des principes. Et c'est quoi le principe? Ah, il veut récupérer le ballon haut. Oui.
On l'entend toujours en conférence de presse.
Tout le monde veut récupérer le ballon haut. C'est juste comment tu arrives à convaincre les joueurs de le faire. Eh ben, Igor Tudor reste là-dessus. Ne cède pas à cette tentation où on va te dire eh ouais, mais ça serait mieux une défense à 4 ou que ce soit. Quelque part, pour moi, il a déjà cédé en remettant Payet sur le match de Francfort à ce poste-là et c'était peut-être pas le moment. Donc là, j'ai juste.
Avec Gerson.
Avec Gerson, les deux.
C'est là peut-être le problème.
Et puis c'est surtout, voilà, on revient à ce truc de. Il faut que tu arrives à convaincre les joueurs de. Oui, mais là, visiblement, il les avait pas convaincus. Oui. Donc, c'est juste de dire, reste fidèle à tes principes, reste sur ton schéma de jeu, va chercher là-dessus. Oui. Si tu renonces,
moi je suis d'accord avec toi, Romain. Mais on parle même pas de renoncement. Il y a aussi les aléas d'une saison. Les joueurs sont fatigués, et quand les joueurs sont fatigués, bah tu essaies de t'adapter, à ce que tu as en stock. Et malheureusement, il a pas les mêmes profils que ses titulaires. Donc, il va falloir, à un moment donné, si tu veux faire jouer 11 joueurs qui sont assez apte, il va falloir que tu changes de système à un moment donné. Parce que t'as pas les mêmes joueurs. Klose pourra pas te faire tous les matchs de la saison. Donc à un moment donné, t'auras peut-être pas de piston sur ce match-là.
Et cas pratique, demain, Oussem, puisque Nuno Tavares est suspendu. Est-ce que tu passes sur une défense à 4 parce que ton fameux système avec
des. C'est pour ça que je te dis ça.
Pas du tout. Non, et moi, tu restes sur ton schéma.
Moi, je comprends un entraîneur qui arrive à un moment donné de la saison où ses joueurs sont fatigués, qu'il puisse à ce moment-là se dire faut peut-être que je joue différemment parce que les joueurs que j'ai en stock ne sont pas les mêmes profils que ceux que j'ai en titulaire. Et c'est le football, c'est une saison. C'est comme
ça. Mais là, le problème, c'est que sur tes pistons, là, puisque tu parles de ça, si un absent comme demain pour Nuno Tavares, je veux dire.
Un absent, ça va encore.
Oui,
tu en as deux.
Non, mais là, ça se pose un problème. Que tu joues à 5 ou à 4, t'auras le même problème de latéraux. Moi, je pense déjà que l'effectif est globalement bien fourni et qu'il peut avoir des profils différents. Comme il le souhaite, je trouve que devant, notamment, c'est bien fourni. Moi, je suis un peu surpris par ton avis, Romain, parce que je suis beaucoup de Marseillais.
Alors, attention, reste quand même mon deuxième Lyonnais préféré derrière Benjamin Jolie.
Je vais essayer, mon copain, je vais essayer. Mais je suis quand même un peu surpris par ton avis, Romain. Non pas que je te rejoigne pas, mais je suis surpris parce que j'ai pas senti ce débat-là naître chez les supporters marseillais, en tout cas sur Twitter, ceux que je suis. J'ai plus senti, moi, un débat sur...
Le choix des hommes,
ouais. Exactement. Et c'est plus ça, moi, qui m'interpelle, et avec lesquels je suis d'accord, parce que je trouve que, moi, le dispositif, il convient bien. Je pense pas qu'il y ait de débat vraiment sur le fait de changer ou pas. Je trouve que ça met bien en position les trois défenseurs centraux, notamment Mbemba, même Balerdi, que je trouvais horrible à certains moments. Je trouve plutôt à l'aise dans ce système à trois par moment, surtout quand il est dans l'axe.
Précise
surtout,
par moment.
Surtout quand il est dans l'axe. Ça met bien en avant les pistons.
Oui.
OK. Mais moi, je pense que le débat à l'OM, et c'est le même débat depuis le début de la saison, même si ça se passe globalement bien, attention, globalement bien, c'est le jeu intérieur et l'utilisation que tu fais de ton jeu intérieur. C'est une équipe qui passe énormément par les côtés, mais je pense que si tu veux plus de variété, puisque tu parles de variété de système, Romain, moi je pense qu'il faut que vous ayez une variété de jeu. Et plus passer par le milieu de terrain, ça passera par autre chose qu'une doublette Veretout-Rongier.
Ah oui, non, mais
Gendouzi
ça,
en première
intéressant. Veretout-Rongier, on est d'accord. Par contre, sur la variété de jeu, juste par rapport à ce que tu dis, Sofiane, moi je suis toujours de l'avis inverse, je maintiens, dans le sens, il y a eu 10 matchs, insiste. Avant de dire, on va pouvoir varier, on va pouvoir faire autre chose, imprime ta marque. C'est pas en
deux matchs. Elle est bien imprimée.
Romain, c'est bon, elle est bien imprimée. Qui suit l'OM au quotidien, t'as le sentiment qu'il hésite actuellement, Tudor, qu'il réfléchit à un autre système?
Non.
Ou tu fais ça en prévoyance?
Non, je fais ça parce que les matchs vont s'enchaîner. Et là, on repart sur un run avec des matchs tous les trois jours, sur une course. De matchs tous les trois jours. Excuse-moi, Nico. J'ai envie de voir un coach qui reste droit dans ses bottes. C'est très compliqué.
Oui, mais t'as pas les joueurs de Marseille. Parfois, t'as pas les joueurs. Malheureusement, c'est une saison, c'est comme ça. Si t'as pas des pistons, je reviens sur cet exemple-là. Comment tu fais?
Tu changes. Et tu finis comme
après,
Peter
t'as doublé
avec un an et demi dans un club et on sait toujours pas.
Il a pas doublé à tous les postes.
Il a doublé à droite, Klose qui s'accaborait.
Oui, mais à gauche, il est pas. Tu vois, des fois, tu retrouves Klose qui va jouer à gauche parce qu'il est pas satisfait de ce qu'il a.
Les copains et les amis, comment? Il y a combien de clubs, restons en France déjà, qui ont autant de possibilités, autant de
choses. Moi, je trouve
que cet effectif, il est ultra fourni.
Mais peut-être que lui, il a fourni son effectif pour avoir d'autres possibilités tactiques, tout simplement.
Après, il fait ce qu'il veut.
Je suis désolé, il a quand même deux joueurs à profil de meneur de jeu sur un 4-3-3 avec une pointe haute au milieu de terrain.
Moi, je pense
c'est peut-être une possibilité.
Le problème de ce début de saison, s'il y en a un, parce que ça l'a amené quand même à une défaite terrible qui change quand même l'odeur de la soupe. Ce qui s'est passé contre Francfort, ça te tue un peu le début de la saison. Sa doublette Gerson Payet, tu vois, un peu double emploi. Ouais. Ça, pour moi, c'est dans le choix des hommes, c'est pas bon. L'utilisation aussi de Guendouzi. Voilà, ça aussi, ça pose question. Moi, je répète, le double pivot Veretout, Rongier.
Tu veux voir Guendouzi au milieu de terrain?
Mais moi, je veux voir surtout.
Tu le trouves trop haut, c'est ça?
Mais moi, je veux voir Gerson aussi au milieu de terrain à la première relance. J'ai envie de voir ça. Même s'il est pas convaincant depuis le début de la saison.
Et tu les enlèves les deux?
J'enlève un des deux, ouais.
Un des
bien
deux.
Sûr. Ouais. Veretout, j'aimerais bien savoir ce qu'il apporte sur le début de saison. Donc voilà, moi j'ai envie plus de variété sur les hommes, mais sur le système, je lui dis touche pas.
Bon, on va en débattre justement par ce que vient de dire à l'instant Sofiane et Romain. Morgane sera avec nous, 32-16, supporter marseillais. Faut-il changer de système peut-être pour plus de variété ou d'hommes, et notamment dans le milieu de terrain de l'OM. Venez en débattre avec nous au 32-16, le hashtag RMC Live également, et Direct Studio pour en parler. On continue Génération After, 21h11 sur RMC. On est ensemble jusqu'à 22h, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Sofiane Zouaoui, Romain Canuti et Oussem Loussaïev, 21h13 à 21h30. On parlera de la sélection iranienne qui sera au mondial, bien sûr. On en parlera dans les prochaines semaines, hein, qui affrontera notamment l'Angleterre et les États-Unis ainsi que le pays de Galles. J'accueille Morgane, supporter de l'OM au 32-16. Salut Morgane.
Salut à tous.
Bienvenue dans Génération After.
Salut Morgane.
Heureux de t'accueillir. Tu as écouté les débats là sur l'Olympique de Marseille. Alors, exactement. Il y a le jusqu'au boutiste Canuti qui veut que Tudor ne change absolument rien, quitte à mourir avec ses idées, quitte à finir à zéro point en Ligue des Champions, peut-être, en phase de poule. Ou il y a le. J'allais dire quoi, le progressiste peut-être, Sofiane Zouaoui, qui malgré une deuxième place au classement en Ligue 1, pense qu'il y a quelques retouches à faire dans l'effectif en maintenant ce système-là à trois défenseurs.
Enfin, lui, il n'est pas deuxième. Hein.
c'est super marrant ça.
Vas-y Morgane.
Honnêtement, je suis plutôt d'accord avec la deuxième personne.
Sofiane.
Sofiane, mon copain.
Voilà, je suis d'accord avec toi Sofiane, mais pas jusqu'à pas à fond par contre. Parce que je suis désolé, mais pour moi, il y a eu des grosses erreurs de coaching et au niveau déjà des partants, parce que Milik, on peut pas le faire partir comme ça. Et il nous a apporté et tout, et puis là en plus on a recruté des centreurs.
C'est vrai qu'il est encore à Marseille, Milik.
Ouais, mais Klaus c'est un super centreur. Maintenant on a plus un mec pour mettre de la tête. C'est qui va nous mettre des buts? C'est qui? Je vois pas.
Bah Sanchez, non,
c'est pas il vous manque.
Ouais,
il vous manque.
Sanchez de la tête.
Franchement, oui.
Il fait 1m20.
Et ben il la met quand même la tête, hein, tu sais, ça veut rien dire.
Et lui, enfin, t'es quand même plus aidé que le mec fait un 88 ou 90 comme
voilà,
Milik.
Voilà, le football des années 80.
On va pas dire que Milik, son point fort, ce soit
juste. Il aurait plus apporté dans ce style-là, on va dire, dans un style un peu plus à l'italienne, comme Tudor voulait le faire. Et voilà, moi, je trouve que ça aurait été quand même mieux. Après, on a Bamba Dieng. Bon, ben voilà, il se passe ce qui se passe, c'est qu'il veut pas re-signer, donc forcément.
Il paraît que la relation se réchauffe actuellement entre le clan Dieng et l'Olympique de Marseille, Longoria Tudor.
Il joue un peu avec les nerfs des supporters aussi.
Normalement, ils n'auront plus le choix, ils vont devoir forcément.
Ils ont beaucoup joué avec ses nerfs aussi.
C'est un autre débat. Revenons à ce que disait Sofiane à l'instant, alors que beaucoup louent la paire de récupérateurs Rongier Veretout. Veretout qui dit d'ailleurs aujourd'hui dans une interview qu'il n'est pas encore à 100%.
Cette paire, Nico, franchement,
elle est pas. Moi, je trouve que vous êtes
Coach Kobe s'en parle régulièrement. Il trouve ces deux-là parfaits dans leur rôle.
C'est vraiment pas le premier chantier. Alors oui, moi, je préférais avoir Guendouzi un peu plus bas sur le terrain. Et peut-être là que tu peux remettre en question cette paire, parce que je trouve que Guendouzi aussi haut sur le terrain, c'est pas rendre service ni à Guendouzi ni à l'OM.
Exactement.
Mais je trouve que vous êtes très sévère quand même avec Veretout et Rongier.
Guendouzi rend beaucoup de service dans cette position haute. Et
sur le pressing.
Il y a des matchs
où
il y a des matchs où tu t'es rendu compte en fait de son utilité à ce niveau-là et que c'était pas juste une option frileuse en fait.
C'est un choix de pression
contre-productif.
Exactement.
Je pense que tu peux l'utiliser de meilleure façon.
Bien sûr.
Vas-y Morgane.
Oui voilà. Ouais non, je trouve que sa frappe de balle déjà elle laisse à désirer à Guendouzi. C'est pas un joueur qui va pouvoir comme Veretout avoir une bonne qualité, décaler un joueur en diagonale etc. Ils n'ont pas du tout la même qualité. Après, voilà, les voir tous les deux en milieu défensif, oui, pourquoi pas. Mais après, voilà, on aurait pu avoir un Payet à ce niveau-là, un peu plus haut déjà. Après, Payet, moi, je pense que sur les 30-40 dernières minutes, on peut le faire jouer. Mais là il est cuit, hein, ça se voit. On l'a vu de nous-mêmes. Hein. De toute façon, en Ligue des Champions, il n'a pas le niveau. En championnat, qu'on a des équipes un peu plus élevées, il n'a pas le niveau non plus. À chaque fois qu'on a gagné, il n'était pas dans les partants.
Hein. Mais moi, je suis désolé. Je trouve aussi que le débat Gerson il n'est pas assez mis en avant, parce que je peux comprendre que son comportement soit détestable, notamment sur sa sortie récente, et même dans le jeu, il n'est pas sur la lignée de la saison passée. Après, déjà, d'une part, c'est un joueur, à mon avis, en termes de vestiaire, tu ne peux pas t'en passer. Ça va être très difficile de faire la saison en l'utilisant en second couteau. Et moi, je veux bien aussi qu'on soit peut-être un peu amnésique, mais sur la fin, la deuxième partie saison dernière, c'est quand même un de tes joueurs phares. Ouais. Techniquement, il t'apporte une touche vraiment très bonne, même s'il était utilisé lui aussi à contre-emploi par Sampaoli, je me souviens notamment en piston gauche, c'était pas tout le temps positif, mais je crois que dans ce double pivot, certains vont dire il est un peu lent, etc. Mais je pense qu'il a quand même une capacité à lancer très vite avec une bonne qualité de passe. Il a aussi une capacité à résister sous pression. On l'a vu contre Francfort et contre d'autres clubs. T'as beaucoup de mal aussi à garder le ballon et à sortir du pressing avec Rongier, Veretout. Je crois que Gerson plus haut, c'est difficile, mais dans le double pivot, moi j'ai envie de voir ça.
Il faut que le mec à côté de lui soit courageux sur les courses quand même.
Aussi. Oui.
Alors, parce que dans la protection de balle,
vous sortez qui les gars?
Moi je sors Veretout.
Mets Gerson à la place.
Ouais. Non, moi je mets peut-être pas Gerson à la place, mais je redescends peut-être Guendouzi. Guendouzi Rongier, je trouve que ça te donne quand même des garanties là-dessus. Après, tout dépend de l'animation. Moi, je suis pas contre l'idée, et c'est peut-être ça la clé, c'est-à-dire que peut-être que tu mets Gerson dans ce poste-là où veulent voir Sofiane, et tu mets Guendouzi devant lui pour protéger un peu l'édifice. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un équilibre sur les 11 joueurs. Moi, je suis pas choqué quand je vois Guendouzi à un poste plus haut, même si Morgan a raison, dans la finition, c'est pas ça,
dans la dernière passe.
C'est pas ça. C'est un des joueurs clés quand même, faut le préciser.
Oui, mais c'est pour ça que
c'est un mec qui doit être sur le terrain chaque match.
Mais si derrière ça te permet, par exemple, à un profil comme Gerson, de mieux surgir et de d'apporter de la vitesse. En fait, il peut changer avec sa vitesse, c'est Gerson Ballon.
Question très simple et très bête, Romain. Le but du football, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Je préfère avoir Gerson plus proche de la surface adverse que Guendouzi, par exemple. Alors oui, sur l'effort, je suis d'accord avec toi. Sur le premier pressing, je suis d'accord avec toi. Mais je préfère avoir Gerson plus proche d'Alexis Sanchez que Guendouzi. T'es d'accord avec moi?
Un jour en Italie, il y a eu des mecs qui ont dû dire à Cesare Prandelli, ouais, mais tu vois, Pirlo, il faudrait le mettre plus près parce qu'il a une bonne.
Ça n'a rien à voir. C'est pas le même profil. C'est pas le même profil.
C'est pas le même profil. Juste pour
Pirlo, mais le même défenseur central, il te mettra des cavières.
Là où je suis pas d'accord avec toi.
Des fois, tu peux mettre un joueur d'un peu plus loin parce que tu penses que dans sa capacité.
Et donc toi, tu vois en Gerson un Pirlo.
Mais pas du tout.
Pense aux zones. Parce que Gerson, l'année dernière, devant, ça avait un sens parce que tu avais un profil comme Milik qui était pas un profil autour de remise. Okay, là, aujourd'hui, tu as Alexis Sanchez. Tu vas faire un double emploi si tu mets Gerson plus haut. Moi, je pense qu'il peut être à côté de lui avec un chien fougueux, avec Guendouzi dans le double pivot.
Parle de Sanchez?
Je parle de Gerson. Gerson avec Guendouzi dans les doubles pivots. Si tu le mets devant avec Alexis Sanchez, tu risques d'avoir peut-être un peu plus de lenteur, un peu plus de double emploi avec Alexis Sanchez que tu as recruté.
Et dans le jeu en petits espaces. Tu penses que tu peux.
Mais moi, j'aimerais bien l'utiliser vraiment, puisqu'on parle de petits espaces, au milieu de terrain. Je trouve que depuis le début de saison, le problème principal de l'OM, la première relance, Gerson est pour moi le joueur qui peut t'apporter ça. Donc j'ai envie de voir cette possibilité.
Morgan, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, moi je trouve qu'on parle pas assez d'Under aussi, qui est sous-utilisé
sous
l'ère Tudor, alors qu'il a pas montré que des mauvaises choses. Moi, j'étais au match à Brest et tout, je l'ai trouvé bon. Mais je l'ai trouvé bon dans ses décalages.
Ce que tu dis, Morgan, excuse-moi, je te coupe, mais ce que tu dis, c'est génial parce que ça illustre le cas Under, mais aussi le cas Gerson. Ouais. Ça illustre peut-être une politique générale qui fait que là, on se plaint de Tudor, mais alors que si ça se trouve, Tudor, il est juste en train de piquer ces mecs-là pour qu'ils s'inscrivent parfaitement dans ce qu'il veut lui.
Il veut les rendre aptes à son système, c'est ça qu'il est en train de dire.
Et peut-être que là, il se montre plus sévère avec eux en termes de temps de jeu qu'avec d'autres joueurs, mais c'est juste parce qu'il a envie de les voir arriver à point. C'est la fameuse technique de Jardim avec Mbappé qui ne le calcule pas pendant 6 mois pour qu'il soit bien revanchard après. Il y a peut-être ça aussi, c'est pour ça qu'on revient à ce que je dis au départ. S'il te plaît, Igor Tudor, garde le cap, reste dans ta logique à toi et ne cède pas à même si nous on trouve injuste que Gerson soit pas bien utilisé, que Guendouzi soit pas bien utilisé, que Under, comme le dit Morgan, soit pas bien utilisé, ben reste dans ta logique et ça va peut-être porter ses fruits dans quelques matchs.
Morgan, merci d'avoir fait le 32-16.
Attention que ce soit pas double tranchant aussi, qu'il se fasse pas piéger, que les mecs lâchent pas l'affaire.
Exactement,
c'est le risque.
Exactement,
c'est le risque, c'est le jeu du football.
Exactement.
Voilà. Merci Morgan. Merci. Question, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis dératiseur.
Il y a du boulot pas en ce moment.
Ouais, bah ouais, là je suis en plein dedans.
Attention,
là,
tu es sur un terrain très glissant.
Ouais,
qu'est-ce que j'ai dit ?
Attention.
J'ai rien dit.
Attention.
Il s'intéresse aux auditeurs.
Si vous avez, c'est pour vous que je le fais, les gars. Si vous avez des RH chez vous, dans vos appartements et vos maisons respectifs, ou secondaires,
rappelle où j'habite.
Moi, je suis sur Grenoble, moi.
T'as Grenoble, Morgan. Voilà. D'accord.
Il y en a partout, de toute façon, en France, des rares.
Ouais, il y en a partout.
Bonne soirée, Morgan. Tu reviens quand tu veux sur RMC.
Salut, Morgan.
Stéphane était avec nous également. Il voulait réagir à la vie de Romain. Salut, Stéphane.
Salut. Bonsoir.
Bienvenue dans Génération After.
Salut, Stéphane.
Alors, est-ce que tu penses que Tudor doit avoir une option B, un plan B, ou simplement peut-être faire évoluer ses choix de joueurs?
Bah en fait ouais, ce que je me suis dit, c'est que quand on est footballeur, on apprend en fait à jouer dans différents systèmes de jeu. Quand on est par exemple un milieu offensif, un ailier, on est sur le couloir droit, bah on apprend à jouer en système 4-4-2, 4-3-3, etc. Et après c'est vrai que par rapport aux joueurs qu'il a dans son équipe, je pense qu'il est il peut faire évoluer son système de jeu quand il a besoin de faire reposer les pistons, parce qu'on n'a pas deux pistons de chaque côté identiques. Et je pense que c'est aujourd'hui, en fait, c'est comme dans tout, il faut savoir évoluer et pas rester sur ses acquis ou rester à mourir avec ses idées. Quel que soit le sport, il y a toujours eu des solutions de repli, des modifications tactiques, enfin ce genre de choses-là, quoi.
Ouais, après tu peux aussi penser que ça peut les desservir aussi. Moi je me souviens des débats l'année dernière autour de Sampaoli, on disait ouais, il change tout le temps et finalement les joueurs a tiré la langue sur la deuxième partie de saison. Moi de toute façon,
après il les faisait pas jouer à leur poste aussi. Il les baladait de gauche à droite.
Ouais, mais tu peux considérer qu'avec Tudor sur certains joueurs, c'est la même chose. On parlait de Guendouzi il y a quelques minutes, c'est ça peut être aussi pareil. Ouais. Mais là où je peux rejoindre, là en fait, faut pas qu'on se trompe sur un truc. C'est que les animations, elles changent beaucoup pendant la partie. Même l'animation de Tudor, elle est flexible aussi. Parfois, il se retrouve à 4 à la relance. Donc, il faut faire attention aussi au système figé. Moi, quand on parle de 3-4-3, je suis désolé, les mecs devant du côté de l'OM, Alexis Sanchez, c'est pas un joueur qui reste que dans l'axe. Il revient aussi dans le cœur du jeu. T'as des mecs qui plongent aussi sur les ailiers. Donc, le plus important pour moi, ça reste les joueurs. Comment tu les utilises? Et moi, je suis. C'est pour ça que je suis un peu en contradiction par rapport à ce que dit Romain. C'est que quand il dit garde le cap, attention, parce que son cap, il est pas clair non plus depuis le début de saison. Combien de fois sur les matchs il a commencé avec un 11 et combien de fois il a changé très vite d'homme? Exactement. Donc c'est là aussi que le cap pour moi il est pas clair, parce qu'il y a des adaptations en cours de match qui sont très bien, parce que ça veut dire aussi que c'est pas un mec avec de l'ego. Il s'est trompé, ça c'est positif. Mais attention, parce que ça c'est arrivé à plusieurs reprises et ça met aussi en lumière le fait que est-ce que t'es sûr du choix de tes joueurs par rapport à ce que tu veux mettre en place pour l'instant?
Tu t'adaptes à tes joueurs au final, tu as beau faire ce que tu veux.
Il s'adapte à ses joueurs, mais il s'adapte aussi en fait au profil de l'équipe qu'il a à l'instant T. Ça prouve quand même comme quoi il est vraiment assez intelligent et qu'il s'enterre pas en fait avec ses idées.
Ça c'est bien. Oui.
Voilà. Après c'est vrai que bon, ce que je disais sur le schéma tactique, le fait de chambouler entre guillemets un schéma tactique sur le papier peut aussi déstabiliser l'adversaire qui va s'attendre à ce qu'il joue d'une certaine manière, et puis en fait bah lui finalement créer son animation comme il l'a créé avant, quoi. Sur un 5-3-2 avec on l'avait l'année dernière avec Camara par exemple qui décrochait dans la défense. Ça peut noyer un peu le poisson face à des équipes, mais si on joue comme ça, comme on joue actuellement avec des phases de possession très très stéréotypées, quand on est à domicile, que on est pendant 20 minutes dans la surface, enfin dans le camp adverse avec trois défenseurs derrière, alors qu'il n'y a qu'un seul attaquant au pressing en face, je trouve que c'est mal utilisé finalement les joueurs, quoi.
Mais tu sais, tu me fais penser à un truc, parce qu'on avait discuté avec Franquès d'ailleurs sur une interview pour le WFC. Il nous parlait de son dispositif tactique et je lui demandais en fait si lui il changeait par rapport aux adversaires. Et en réalité, il changeait très peu. Lui, il dit ma force à moi, c'est de jouer comme ça. Évidemment, il peut y avoir quelques adaptations à la marge.
Tu peux replacer un joueur.
Mais aujourd'hui, en plus, tous les coachs avec les vidéos savent exactement comment les équipes jouent. Donc tu vas pas les tromper. On n'est plus malheureusement dans les années 90 ou 2000 où le mec arrive avec un système incroyable où tu bluffes. Non, aujourd'hui, tout le monde sait. T'as des batteries d'analyse qui sont capables de te dire comment ça joue dans chaque situation. Donc non, moi je pense qu'il faut surtout qu'il soit bon sur le choix des hommes, sur sa gestion humaine.
Merci Stéphane, on fait le 32-16.
Avec merci plaisir, Stéphane. Merci à vous.
Très bonne
merci
soirée à toi. Stéphane. Tu nous rappelles quand merci tu veux, hein, par exemple, demain bonne soir, après ce Angers-Marseille, à 21h. Je rappelle que Marseille part sur un programme de folie. 50 jours, 11 matchs à jouer. Wow, Angers demain soir et ils finiront sur Monaco le début novembre. Ce sera exactement
c'est le cas de tous les
12-13 novembre.
Ils jouent l'Europe, comme ouais. Lyon, comme...
Ouais, Lyon, par exemple.
Voilà pardon, pour l'Olympique de Marseille. Mais dans un instant, on parle de la sélection iranienne qui a eu un courage inouï. On sera avec un homme qui connaît bien ses joueurs internationaux. Il sera avec nous dans un instant. Il s'appelle Bamdar. Dans un instant, avec Oussem Le Saïef, Romain Canuti et Sofian Zoui sur RMC. C'est Génération After, 21h27. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Merci d'écouter RMC 21h30 Génération After avec Oussem Le Saïef, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui. Messieurs, je pense que l'image ne vous a pas échappé également mardi soir lors du match entre l'Iran et le Sénégal à Vienne. Les joueurs iraniens ont exprimé leur soutien aux manifestants et manifestantes de leur pays contre le régime en place après la mort d'environ 80 personnes, 80 de leurs compatriotes. Pendant l'hymne, ils ont revêtu une parka noire sans blason qui masquait le maillot de l'équipe nationale très symboliquement. Bien sûr, la communauté internationale a salué leur courage. Et bien, on en parle ce soir dans Génération After avec un invité qui connaît très bien cette sélection. Bamdad est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être dans Génération After. Enchanté, heureux de vous accueillir sur RMC. Bamdad, je rappelle que vous êtes canado-iranien, c'est bien ça ? Né en Iran ?
Exactement. Et absolument.
Ancien directeur des opérations de l'équipe nationale pendant 8 ans, équipe nationale iranienne, bien sûr. C'est ça aussi ?
Absolument, absolument.
Donc vous connaissez beaucoup de ces joueurs.
La plupart de ces joueurs, je les connais. Ils sont arrivés au moment où Carlos Queiroz a pris l'équipe en main. Et donc, je les ai vus évoluer déjà à la Coupe du Monde 2014, donc au Brésil, puis à la Coupe du Monde 2018 en Corée, en Coupe d'Asie, en Australie, etc., etc., oui.
Alors, est-ce que vous avez été surpris, d'autant plus en les connaissant, par ce geste ?
Surpris et pas surpris parce que il faut savoir que avoir de tels gestes peut avoir des répercussions et des conséquences en Iran. Maintenant, on les connaît pas, on peut pas dire maintenant quelles peuvent être les conséquences, mais elles peuvent être lourdes, elles peuvent être sanctions, ça peut être des sanctions, ça peut être des évictions de l'équipe nationale. On sait pas en fait, on sait pas exactement ce qui peut arriver, mais en tout cas, on sait qu'il y a des conséquences quand on va contre le système ou contre
le régime
en place. Oui, c'est
ça.
D'ailleurs, Allez-y.
En fait, l'histoire, il ne faut pas la politiser. Moi, je n'aimerais pas qu'on parle de politique et de la situation politique en Iran. Je pense que pour ces gamins-là, il y a eu un souci, en fait, c'est qu'on leur a reproché de ne pas prendre soutien par rapport à la cause et de ce qui se passe actuellement en Iran. Et en fait, il faut savoir que c'est lourd pour des jeunes Iraniens qui défendent les couleurs d'un pays de défendre... sachant la situation qu'il y a en Iran. Mais en fait, c'était peut-être pas le bon moment, mais ils ont quand même voulu montrer leur soutien et je pense que ce qu'ils ont fait, c'est très très courageux et le geste est vraiment à saluer par tout le monde. Ouais.
Oussem.
Très difficile de pas politiser, c'est très difficile, c'est un geste fort, ça change des prises de position qu'on peut voir nous pour nos joueurs français. Je voulais revenir sur l'exemple d'Ali Karimi il y a quelques années, je sais plus c'était quelle année exactement, mais oui. Il avait pris position, ils avaient mis lui et quelques joueurs, ils avaient mis des bandeaux, je m'en rappelle, et exactement. Et on les avait sanctionnés pour ce geste-là. Donc je pense que les joueurs malheureusement vont être sanctionnés pour leur prise de position. Mais moi ce que je voulais savoir, c'est
attention, ils le font collectivement.
Collectivement, quelque ils part, le font tous ensemble.
Les protéger
je reviendrai sur
monde.
Ça.
Comment c'était vu par le peuple ? Est-ce qu'on les voit comme des héros ? Est-ce que le peuple, maintenant, est prêt à son tour à soutenir l'équipe nationale après ce geste-là ?
Oui, je pense que l'opinion publique a quand même changé de côté depuis donc ce qui s'est passé il y a deux jours durant le match Sénégal-Iran. Comme je vous disais, il y a eu beaucoup de critiques à leur encontre, mais je pense que là les choses sont rentrées dans l'ordre. Vous m'avez parlé d'Ali Karimi, il faut savoir que c'est un des leaders du mouvement actuel même où il a défendu la cause depuis le premier jour et il est en fait on peut le suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être peut-être le number one des gens connus qui ont défendu cette cause, puisque l'autre raison, c'est aussi qu'on reproche aux gens qui sont connus, qui sont des acteurs, les chanteurs, les gens qui sont dans le cercle un peu fermé et qui ont un mot à dire et qui sont écoutés, ils n'ont pas pris position justement par peur des répercussions que peut avoir ce geste.
C'est extrêmement courageux.
Quant aux joueurs, oui. Oui, quant aux joueurs, là, je ne veux pas parler de conséquences. On ne sait pas ce qu'il peut avoir. Il peut ne rien y avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris cette cause tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un ou l'autre qui a pris position. Et là, c'est quand même difficile d'évincer une équipe entière à moins de 2 mois de la Coupe du Monde. C'est, ça semble un peu compliqué quand même.
Mais il y a un homme également qui est un leader de ce soutien aux manifestants et manifestantes en Iran. Un homme qui a failli signer à Lyon, d'ailleurs, il y a Sardar Azmoun, qui joue aujourd'hui au Bayer Leverkusen, attaquant vedette de la sélection iranienne, faut-il encore le présenter, qui lui a assumé après ce match également son soutien sur Instagram, 5 millions de followers, donc ça peut avoir une vraie résonance également sur l'opinion. Il a écrit notamment: la punition ultime est d'être expulsé de l'équipe nationale, ce qui est un petit prix à payer pour même une seule mèche de cheveux d'une femme iranienne. Ça ne sera jamais effacé de notre conscience. Je n'ai pas peur d'être évincé, honte à vous d'avoir si facilement tué le peuple, et vive les femmes d'Iran. Bon, évidemment, le courage est immense de le faire.
Absolument.
Je vais accueillir, tiens, Arthur également, qui est avec nous, 32-16. Salut Arthur.
Nico, salut l'after.
Tu es franco-iranien, si je ne me trompe pas, c'est bien ça?
Ouais, exactement, par ma mère.
Alors raconte-nous comment tu as vécu ce geste très symbolique, mais fort également, de la sélection.
Écoutez, j'ai été agréablement surpris. Agréablement surpris parce que on se doutait évidemment que les joueurs iraniens avaient un avis sur la question, et bon, compte tenu du fait que la plupart d'entre eux sont jeunes, qu'ils jouent en Europe, que certains d'entre eux font partie de la diaspora, on pouvait se douter qu'ils ne cautionnaient pas ce qui se passait, mais qu'ils le fassent de façon aussi ouverte sur les réseaux sociaux, même sur le terrain. Sachant que, vous l'avez un peu évoqué, mais la dernière fois que les joueurs iraniens avaient fait une telle manifestation, il y avait eu quand même des pressions de la part de la fédération iranienne. Donc c'était en 2009, après la réélection d'Ahmadinejad et sous forme de fraude. Il y avait eu des pressions de la fédé iranienne. Il y avait des joueurs, notamment le capitaine de l'époque, Madavikia, qui avait été menacé d'être exclu. Et surtout, ce qu'il faut savoir, et ça en tant que franco-iranien, je le sais, c'est que tous ces mecs-là, ils ont sûrement de la famille en Iran, très probablement, quoi.
Bien sûr.
Et, ils se disent, c'est potentiellement eux, ces mecs-là, aimés, la famille de Sardar Azmoun, par exemple, ils sont pas connus en Iran. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent subir des conséquences. Donc vraiment, j'étais agréablement surpris et fier, je le dis, fier de la prise de position des joueurs de la Team Elite.
Bamdad.
Oui, en fait, pour compléter un peu ce que mon ami dit, tous les joueurs iraniens, je répète, tous les joueurs iraniens, à part un joueur, toute leur famille habite en Iran. Il y a uniquement Saman Rodous qui a, je pense, ses parents qui habitent en Andorre. Tout le reste, même les joueurs qui jouent on a notre capitaine Ali Reza Jahanbakhsh qui joue à Feyenoord, ou Mehdi Taremi qui joue à Porto, et Sardar Azmoun, etc. Ils jouent tous, ils ont tous de la famille en Iran, et je ne veux pas dire l'exclusivité de leur famille, mais la quasi-totalité de leur famille vit en Iran.
Je pose la question de manière volontairement naïve, ça veut dire, vous entendez, que les autorités et le régime en place peut s'en prendre à leur famille à défaut de pouvoir s'en prendre aux joueurs en question?
Non, mais il faut pas aller aussi loin. On ne sait pas. L'Iran est un pays très particulier. On ne sait pas si, oui, comme je le répète, on ne sait pas s'il y aura des répercussions. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout. D'ailleurs, c'est fort probable qu'il n'y ait rien du tout, parce que comment on va faire avec l'équipe nationale? Oui. C'est une équipe qui va participer à une Coupe du Monde. On ne peut pas évincer, parce que ça aura encore des répercussions encore plus importantes, de ne pas être présente à la Coupe du Monde ou d'être exclu de la Coupe du Monde pour avoir fait ça. Parce que si quelque chose comme ça arrive, c'est la FIFA qui va rentrer.
Et
là, il y aura Exactement. Et là, moi, avoir été dans ce système et étant toujours agent FIFA, je peux vous dire que le système est très puissant et c'est là qu'il y aura des répercussions encore plus importantes et peut-être être évincé ou être exclu des compétitions pendant plusieurs années pour ne pas justement faire les choses comme il faut.
Il faudra voir aussi après le mondial hein, pour ces joueurs iraniens.
Oui, ça peut être plus vicieux au niveau des répercussions. Mais vraiment, juste ce que je veux dire pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui se disent. Bon ben ça va, ils ont fait une mission comme des influenceurs, ils ont fait un post Instagram et tout. C'est juste pour expliquer ce qui s'est passé. Là où on dit, et depuis tout à l'heure, on est en train de dire pour expliquer à quel point c'est courageux, c'est pas seulement pour leur famille aussi là-bas, c'est la répercussion de l'image. Et c'est pas pour dire l'Iran est un pays particulier, c'est juste l'Iran est un pays qui n'est pas européen. Et c'est juste pour vous expliquer que la perception d'une information d'un continent à l'autre peut être totalement biaisée. Et que si ça se trouve... Je n'en sais rien, je suis loin d'être expert iranien, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que cette information-là, cette image qu'on a vue de la parka, on peut en faire dire ce qu'on veut dans un autre pays. Et on peut les faire passer pour quelque chose de totalement différent. Et on l'a vu, ça ne concerne pas que l'Iran, ça ne concerne pas que cette culture, mais on l'a vu au Brésil, on l'a vu évidemment avec la Russie et l'Ukraine. Donc, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas juste... voilà, parce qu'il y en a peut-être qui nous entendent là depuis tout à l'heure dire c'est extrêmement courageux, qui se disent ça va, c'est juste un post Instagram. Non, c'est pas qu'un post Instagram. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de courage.
Sofiane
ouais,
également.
Oui, parce que ce type de geste qui est très, très fort, dramatiquement fort, bien sûr, mais qui est très fort, elle remet un peu en perspective ce que nous. On pense de ce que les sportifs doivent faire de la politique ou non, parce que dernièrement on a eu des débats en France sur des sujets beaucoup plus enfin qui étaient graves également. Il y avait notre ministre notamment qui disait ne pas trop en demander aux oui. footballeurs, ne pas trop parler des sujets politiques, c'est pas forcément leur rôle. Et on se rend compte malheureusement que quand on est dans des sujets aussi dramatiques que ce qui se passe en Iran, t'es obligé. C'est utopique de penser qu'un footballeur il peut pas s'engager par rapport Exactement. À ces questions-là.
Donc, Absolument.
Donc là, ça nous met bien en perspective aussi que chez nous, peut-être aussi chez nous, on fait pas assez par rapport à certains sujets d'actualité. Et ça remet les choses en place. Donc je trouve le geste très fort et ça met aussi une claque par rapport à notre gestion de la communication et des footballeurs.
Mamdad,
il faut. Oui, je voudrais juste intervenir sur quelque chose. C'est très simple. Allez sur Instagram, regardez Mehdi Taremi, regardez Sardar Azmoun, et regardez le nombre de followers qu'ils ont. Beaucoup de joueurs de classe mondiale n'ont pas la moitié de followers que ces jeunes ont en Iran. Il faut savoir que l'Iran, c'est un pays de plus de 80 millions d'habitants où le club phare qui est Persepolis est le club qui a le plus grand nombre de fans en Asie. Et peut-être un des clubs au monde qui a le plus grand nombre de fans dans un même pays, qui sont plus de 40 millions. Donc, le football a un vrai impact. Ces joueurs-là, en Iran, ont un vrai impact, je veux dire, sur la société. Avoir pris position, alors qu'il y a des acteurs extrêmement connus, des chanteurs qui sont extrêmement connus, des gens connus de la société qui ont pris zéro position. Et ces jeunes qui vont se sont quand même mis en avant. Sardar Azmoun hier, avant-hier, en sortant du terrain, quelqu'un lui a proposé de changer son maillot et il a dit « Moi, mon maillot n'appartient pas à une personne, elle appartient à tous les Iraniens. »
Donc, et iraniennes.
Ce qu'il a posté, c'est pas tout le monde qui va le faire. En Iran, on parle de l'Iran, on parle pas de la France ou on parle pas de l'Allemagne ou l'Angleterre où on est libre de penser, de faire ce qu'on veut.
La question également, c'est est-ce que les Iraniens et Iraniennes ont pu voir ces messages sur Instagram? On rappelle que les réseaux sont fermés depuis plusieurs jours déjà. Je parle d'Instagram, je parle de WhatsApp également, Twitter aussi. Arthur, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose également? Arthur, es-tu là toujours? Arthur.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien, vas-y.
C'est bon. Bah, deux choses déjà concernant des potentielles sanctions. Il faut savoir que aussi le régime des Mollahs adore récupérer politiquement le football. Donc ils ont tout intérêt à avoir l'équipe nationale performante et la voir performer à la Coupe du Monde, d'autant qu'il va y avoir un petit match contre les États-Unis, quand même, qui sera hautement symbolique.
Qui nous ramène à l'histoire.
À faire ça. Et pour compléter aussi ce qu'a dit Bamdad sur la puissance du foot en Iran, j'invite tout le monde à aller voir des images sur YouTube du derby de Téhéran entre Persepolis et Esteghlal au stade Azadi.
Il paraît que c'est incroyable à vivre.
Ouais. Non mais c'est une ambiance c'est le vélodrome plus le parc plus Geoffroy Guichard plus tout ça combiné quoi, c'est absolument dingue.
Mais donc voilà, ils ont aucun intérêt à voir l'équipe nationale en tout cas mauvaise quoi. Et en plus quand tu demandes est-ce qu'ils l'ont vu sur Instagram, tu sais les Iraniens ont l'habitude d'avoir ces coupures d'internet et d'un peu coupés du monde. Et donc ils ont développé
ils savent les contourner.
Alternatifs. Donc t'inquiète pas, ils l'ont vu. De toute façon ou l'autre, ils l'ont vu.
Merci beaucoup Arthur d'avoir fait le 32-16 pour en parler avec nous. Bamdad, merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez.
Le plaisir est partagé.
Je rappelle que
l'Iran
va avoir un bel enjeu dans moins de 2 mois au Mondial avec l'Angleterre, les Pays-Bas.
Si je pouvais encore dire un mot sur le groupe. Je pense que tout le monde, les amoureux de football, ont aussi suivi un peu ces matchs amicaux. L'Iran a quand même battu l'Uruguay 1-0, a fait match nul contre le Sénégal et en ayant marqué les 2 buts, puisque le but qu'on prend est un but contre notre camp. Moi, je pense que l'Iran a largement dans ce groupe et vous allez être surpris par l'Iran à cette Coupe du Monde. Il faut pas oublier qu'à la dernière Coupe du Monde, on a battu le Maroc, on a fait match nul contre le Portugal et on a perdu 1-0 contre l'Espagne.
C'est vrai. Et vous savez, les 32 équipes vont se qualifier pour les 8e de finale, j'ai l'impression, quand on écoute tous les supporters de chaque sélection. Mais oui, on va les suivre avec intérêt, bien sûr.
C'est ce qui fait la beauté.
Il faut les suivre. Voilà. Merci beaucoup pour l'intérêt.
Merci beaucoup.
Merci, c'est normal, on tenait à le faire ce soir. Merci beaucoup, très bonne soirée, très bien sur RMC. Très vite.
Merci beaucoup.
Autopromo, je vous conseille d'écouter le podcast After Galaxy de Nicolas Villas sur le foot iranien. Il parle du derby de Téhéran exceptionnel.
Vous pouvez y aller, le derby de Téhéran. Dans un instant, encore un moment très attendu de Génération After.
La ministre des Sports va réagir sur les sportifs qui prennent position.
Toujours pas. On va accueillir Jimmy Brown qui va réagir lui à l'after. Dans un instant, restez avec nous, c'est Génération After, 21h46. On revient dans moins de 2 minutes. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Vous écoutez RMC, il est 21h48, c'est Génération After. La fin de Génération After de ce jeudi soir avec Sofiane Zouaoui, Romain Canuti, Oussem Loussaïef. Et j'accueille également, comme de tradition tous les soirs à 21h45, le duo du PAF, paysage audiovisuel français, Gilbert Brébois et Daniel Riolo. Bonsoir messieurs.
Bonsoir les amis.
Salut les gars.
Ça va? Bon,
c'est Sofiane de Winamax?
Winamax FC. Ah ouais, bien bon. WFC. Je crois que c'est du 4.
Tu veux des cotes peut-être, Gilbert?
Non, c'est bon, on les a déjà.
C'est bon. Et j'accueille bien sûr Jimmy Brown pour sa chronique. Bonsoir, Jimmy.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous.
C'est Jimmy Brown de l'After Foot?
De plein de choses. De beaucoup de choses. Du Parc des Princes.
Un peu de Winamax aussi.
Un peu des grands cercles de poker parisiens, de tout. De Winamax beaucoup aussi, je pense.
On va se le garder.
Tu sais que c'est un peu Jimmy qui te paye ton salaire chaque mois.
Oui, non, mais il paye beaucoup d'entreprises autour du bookmaker. J'ai vu son écran tout à l'heure.
Pas vraiment.
Malheureusement.
Allez, jingle, vrai. Jimmy Brown. Say a word for
Jimmy Brown. Gilbert, je voulais t'interpeller sur quelque chose. On est là depuis 20h. On a Romain Canuti qui arrive tout droit de Marseille et pas un mot sur le départ de plus en plus probable désormais de Jacques Henry Roux. Je sais que vous allez en parler dans quelques minutes.
Oui, d'ailleurs, je suis désolé parce que c'est un peu comme si Romain voulait pas en parler, comme si c'était tabou.
C'est curieux. C'est curieux. Jacques Henry Roux va quitter le club.
Pourquoi Romain était proche de Jacques Henry Roux?
J'ai l'impression.
Absolument pas.
Mais c'est pas possible quand même.
Non, on est suiveurs.
On peut pas être proche d'une escroquerie comme ça. Enfin,
non,
c'est pas vrai.
Pas le cas. Et en vrai, c'est juste que c'est pas une nouvelle. C'est une nouvelle qui n'en est pas une. Ça fait un an et demi qu'il touche à plus rien au club.
Oui, mais c'est mieux. Qu'il est loin de l'OM,
mais l'OM ne peut que se porter mieux. Qu'il est dans les instances, mais que ça sert à rien.
Ah oui.
Et qu'en fait, on lui laisse cette importance-là.
Oui, mais il y a pas d'importance pour lui.
Oui. Non, mais pour lui, oui, pour son ego. C'est tout.
Ah, ouais, on s'en fout de son ego.
Ouais, mais bon, là, il a quand même officiellement quitté le club. Et je me suis dit que ça valait quand même un hommage. Jacques-Henri Hérault, c'est pas rien. Jacques-Henri, c'était avant tout un mélomane. Il était capable de poser un couplet à n'importe quel moment, souvenez-vous.
Ici, c'est Mars. Surface rouge. Population panique. Histoire tragique. Atmosphère tendue, volcanique.
Oh mon Dieu.
Linge pendu.
C'est gênant.
Mur sali. Boss trafic. Tape au cœur. De la zig automatique de Mac.
Ah, eh ouais, mais ouais, pas ça, Daniel. T'es capable, toi, de poser un couplet en impro comme ça?
La ponctuation sur le hic, tu vois, à la fin, tu vois.
T'es capable de poser un couplet comme lui, comme ça, en impro?
Bah écoute, je vais pas me risquer, moi, à chanter, mais j'ai pas les mêmes références que lui en matière de rap. Moi, c'est plutôt ça.
Ah ouais, hey, pourquoi pas.
Et je sais pas.
On va rendre un hommage à Coolio. Coolio, on profite pour lui rendre un petit hommage.
Ça, ce sont plutôt mes références. À moi, tu vois. Je suis désolé, moins. Avec,
il m'a séché, je m'attendais pas du tout à
ça.
Mais pas du tout, c'est juste parce que vous me connaissez pas. C'est
moi, j'ai déjà fait un blind test avec.
C'est vrai qu'on a fait des soirées blind test, c'est très costaud. Très costaud sur la pilote, bien sûr. Bon, autre qualité, on va revenir.
Le problème, c'est que je n'aime que la qualité. Donc je la prends là où elle est.
Ayam, cette qualité. Ayam, c'est pas mal. Daniel,
Ayam, c'est qualité.
Excuse-moi de penser que ça n'a rien à voir avec mes références rap, que c'est en dessous. J'ai beaucoup de respect pour eux. Pour ce qu'ils ont fait, ils ont eu une très belle carrière, mais j'ai le droit de. Ça ne me touche pas.
T'es plus NTM ou pas?
Ça ne me touche pas. Je suis évidemment beaucoup plus NTM.
Ah ouais, mais juste,
c'est un morceau de la Kenaton, messieurs. Vous êtes des puristes, vous aimez la précision, je vous précise, c'est un morceau
de la Kenaton. Je suis plus Team Shuriken.
Bon, revenons-en à Jacques Henry qui avait plein de qualités qu'on n'a pas assez mis en avant. Par exemple, tout le monde nous bassine à longueur de journée avec Longoria, le génie qui connaît le foot mieux que tout le monde. Jacques Henry aussi, il connaissait bien. Rappelez-vous la présentation d'Alvaro González à l'époque.
Présentation officielle de notre première recrue estivale. Alvaro Gomez.
Gomez, González,
mais c'est ça va.
T'es sévère.
C'est pas ça qui compte.
Sévère.
À une syllabe près.
C'est pas ça qui compte. On peut se tromper. L'important, c'est vraiment de bien connaître l'environnement dans lequel tu bosses. Et là-dessus, Jacques Henry, il était imprenable.
J'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. Et ça va pas.
Eh oui, ça va pas. Eh oui, ça va pas. Tu sais bien, toi, mieux que personne, Romain, que si tu veux réussir, faut mettre des Parisiens partout. On met pas des Marseillais. Ah non, c'est pas possible.
Ce qu'il a fait.
Romain, qui a eu la chance parfois d'assister à quelques héros comedy club à base de PowerPoint, de punchline, tout ça, j'en ai retenu quand même une qui est restée dans la légende.
J'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité auprès de certains d'entre eux, notamment avec le démarrage de cette période du mercato. Donc, je voulais leur proposer de ne pas hésiter. Il existe des produits licites qui permettent de passer de bons moments, y compris en ce début de mercato. C'est peut-être valable d'ailleurs pour quelques journalistes dans cette salle. En tout cas, voilà, on a démarré. On va avoir d'autres choses à vous proposer dans les jours qui viennent et tout se passe de notre point de vue très bien. Et j'aurai peut-être des questions sur ces sujets-là.
Il monte la tête. Vous vous rendez compte de ce qu'on perd quand même. C'est
là, moi, il me manque. Hein,
la vraie au moment où il parle,
il y a
le slide
avec une tisane.
Une tisane là-dessus. Mais ça, c'est là où c'est terrible, c'est qu'en fait, quand il fait ça, c'est fin juin, c'est pour la présentation de la première recrue, qui est Valère Germain. Bon, à l'époque, c'est bien. Au moment, jusqu'au deuxième match, c'était bien. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, et c'est pour raconter comment ça a été perçu à Marseille, pour comprendre aussi les ressorts de la communication, c'est que tout le monde à ce moment-là m'ont dit, ouah, héros, il est trop fort. Et je dis, ah bon? Et ils m'ont dit, bah ouais, s'il dit ça, c'est qu'il est sûr de lui. Et c'est que derrière, l'attaquant qu'on va signer, ça va être un monstre. C'est sûr. S'il a dit ça, c'est qu'on va prendre un monstre.
Oui, t'as fait Mitroglou derrière Mitroglou
après. Et après, c'est Mitroglou le dernier jour du
match. Je pensais que c'était une vanne.
Mais moi, je pensais que t'avais fait.
Et juste sur le truc de Alvaro Gomez aussi, faut savoir que derrière, il y a une autre conférence de presse et il avait fait exprès de se tromper. Il avait dit Pierre-André Gignac. André-Pierre Gignac, et il avait fait exprès pour que les gens le relèvent pour dire genre en gros je me trompe, ouais. Je m'en fous,
ouais.
et en fait personne l'avait relevé, donc c'était dire un peu le flop, mais il avait calculé ce coup là.
Je rappelle quand même une déclat de Jean-Michel Aulas. Il s'était chauffé avec Héros au début de l'arrivée,
ouais.
Héros
venait d'arriver à Noël,
et Aulas avait dit celui-là il sera plus dans le foot que moi j'y serai encore. Bah, il a eu raison
comme souvent. Et pourtant, il y a une dernière qualité que je voulais vous mettre en avant chez Jacques-Henri Héros, c'est ses qualités de visionnaire.
Qu'un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation, valait 2 points. Pourquoi c'est FIFA, Electronic Arts, qui imagine ça? Il y a même un mode dans le jeu qui est un mode sans règles. Voilà, c'est un peu le chaos. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette innovation, et pourquoi pas demain sur des vrais terrains, un tir des 30 mètres qui fait but, ça rapporterait pas 2 points. Pas un.
Parce qu'on veut pas. Pourquoi pas?
On n'en veut pas.
Pourquoi pas? Vous n'avez pas pensé à ça. Tu vois, Daniel, toi, t'es là.
Moi, je préfère.
Esprit fermé, machin. Faut avoir un peu d'imagination quand même.
Je suis totalement esprit fermé, conservateur là-dessus.
Même pas les méthodes coach Courbis, le carton orange, le. Non.
Non.
Même pas ça.
Il est juste derrière. Coach, fais attention à ce que tu vas dire.
Il est en train de se marrer, coach.
On en a parlé 1000 fois de ça. Il sait très bien ce que je
fais. On lui a fait accepter la victoire à 3 points déjà, coach Courbis.
Déjà.
Comment ça, on lui a fait accepter de force? Il a jamais accepté. accepté.
Je sens que ton 22-23 il va être très bon.
Déjà que pour Roland, 3-1, c'est comme 1-0 en Coupe d'Europe.
Alors, va lui dire maintenant qu'ils ont remis la finale de la Coupe d'Europe. Vas-y, va lui dire, toi.
Bon, merci, Jimmy. Non, je passe en dernière case dédiée quand même de JHE à Sega Sûr.
Et donc, je voulais les saluer avec une mention spéciale pour Pov 28, Basile Bowie, Air Vélodrome et tous les autres.
C'est voilà. Un concert de rap. Ah,
franchement, voilà, aussi, on t'embrasse, bonne route.
On t'embrasse.
Merci Jimmy, à demain également, dans un instant la suite de l'after. Merci à toi Romain, merci Sofiane.
Merci
Oussem, à très vite dès demain soir 20h pour un nouveau Génération After. Daniel, Gilbert et Coach Courbis arrivent, l'after se poursuit jusqu'à minuit.
Génération After.